Alors, mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue à cette première rencontre des entretiens de la chaire Heller Wilson sur le droit des technologies d'information et du commerce électronique, qui coïncide aussi en même temps avec une période du cours DRT 6913, ce qui fait qu'on fait de la convergence à l'université. On a aujourd'hui donc le plaisir de recevoir Maître Diane Bois, avocate légiste au ministère de la Justice et rattachée au ministère de la Santé et des Services sociaux, c'est bien ça? Le ministère n'a pas changé de nom la semaine dernière. Et donc, Madame Bois a travaillé depuis déjà quelques temps, en particulier sur la rédaction de ces nouvelles dispositions de la loi sur les services de santé et services sociaux, sur notamment les services régionaux de conservation de certains renseignements personnels de santé qui figurent dans, désormais, figurent dans la loi sur les services de santé et services sociaux. Auparavant, elle a déjà travaillé à la Régie d'assurance maladie et elle avait été impliquée dans plusieurs projets, dont celui de la carte santé, donc des projets qui visaient là aussi à assurer de nouvelles façons de partager les informations dans le secteur de la santé. La façon dont nous allons procéder, c'est que nous allons entendre l'exposé de Madame de Maître Bois. Des copies des acétates qu'elle va nous présenter sont disponibles ici à l'avant. Elles le seront également en ligne sur le site de la chaire Heller Wilson à compter des prochains jours, de même que la bande sonore de sa présentation qui sera aussi rendue disponible sur le site pour les personnes qui voudraient y revenir ou reméditer à nouveau les propos qu'elle va nous tenir. Tel que convenu et tel que c'est la tradition, il s'agit en fait de réunions d'experts. Les propos que Mme Bois va tenir, bien sûr, elle appartient au ministère de la Justice, mais on ne considère pas qu'elle est la porte-parole officielle ou qu'elle engage le ministère de la Justice. On n'attend pas d'elle des interprétations officielles de la loi, mais davantage une présentation de ces nouvelles dispositions. Et donc, je vous souhaite encore une fois, Mme Bois, la bienvenue. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et je vous laisse la parole.
Merci. Alors, merci beaucoup pour l'invitation qui m'a été faite de venir présenter les nouvelles dispositions législatives qui concernent l'informatisation du réseau de la santé et des services sociaux, mais plus particulièrement les services régionaux de conservation, qu'on appelle aussi communément le DSEIQ, au dossier santé électronique interopérable du Québec. Donc ça, c'est le mot que les architectes et les technologues dans le milieu emploient pour mettre en œuvre ces nouveaux services de conservation. Je suis aussi heureuse de me retrouver à l'Université de Montréal, parce que je suis une ancienne étudiante de l'Université de Montréal. J'ai terminé mon cours il y a maintenant plus de 30 ans, et j'ai eu l'occasion de renouer connaissance avec d'anciennes collègues. Ça me fait bien plaisir d'être ici parmi vous. Alors, pour débuter, vous allez voir, c'est une présentation quand même assez longue. Je pense que les 3 heures qui nous sont allouées ne seront pas de trop. N'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure. Si jamais ça devient trop lourd et que ça embête les gens, peut-être qu'on pourrait faire les questions à la fin de la présentation. Mais pour débuter, je pense que ce serait intéressant, si vous avez des questions, de les poser et je tenterai de vous répondre. Alors, le plan de la présentation, on va examiner très, très brièvement quelles sont les caractéristiques de la réforme du réseau de la santé et des services sociaux. Je vais vous présenter une vue d'ensemble des dispositions de la loi 83 qui concernent l'informatisation du réseau comme tel. Ensuite, on va se pencher plus particulièrement sur les services régionaux de conservation de certains renseignements de santé. On va voir un peu les responsabilités de la RAMQ, parce que la RAMQ est appelée à offrir différents services en soutien aux services régionaux de conservation. Et si on a le temps, on pourrait regarder un petit peu tout ce qui touche les mesures relatives à l'identification et l'authentification des intervenants qui vont être appelés à transmettre des renseignements dans ce fameux dossier santé électronique ou encore en recevoir communication. Et encore là, si on a du temps, peut-être qu'on pourrait avoir quelques impacts. Donc, c'est un gros programme. J'espère qu'on va pouvoir répondre à vos besoins. Alors, caractéristique de la réforme, ce qui est visé par le ministère, c'est vraiment d'avoir des services intégrés. On sait que maintenant, lorsque un patient rentre dans un hôpital pour recevoir des soins, ces soins ne sont pas dispensés de façon complète au même endroit. On va probablement l'acheminer vers d'autres ressources, il faut s'assurer de l'intégrité de ces services-là. Différents moyens ont été mis en place pour assurer cette vision intégrée des services, dont une réorganisation des services, qu'on pense par exemple à la fusion des centres hospitaliers, des CLSC, des CHSLD, qu'on appelle maintenant les instances locales ou les CSS, et les nouveaux réseaux locaux de services aussi qui permettent de prendre en charge un patient sur un territoire de réseau local de services. Donc, une réorganisation des services. Et toujours pour atteindre cette intégration des services, on vise aussi beaucoup sur l'accès à l'information. Les bénéfices anticipés, c'est vraiment une accessibilité aux services qui est améliorée, qualité et continuité des services qu'on veut assurer, un accès rapide au traitement aussi, parce que si les intervenants ont la bonne information au moment opportun, ils pourront rendre de meilleures décisions plus rapidement, et aussi une cohérence de l'intervention, parce que plusieurs intervenants ont intervenu dans un plan de service qui est offert aux usagers. Alors, je vais vous présenter très, très brièvement là, cette petite diapositive-là qui touche vraiment là, l'informatisation du réseau, tout ce qui a été mis en place pour favoriser une meilleure circulation des renseignements de santé. On a d'abord, vous savez, le dossier de l'usager. J'imagine que vous avez dû voir ou vous verrez que le dossier de l'usager, c'est-à-dire que le dossier qui est tenu par un établissement. Quand on parle d'établissement, on pense à un centre hospitalier. Autrefois, on parlait de CLSC, de CHSLD. Maintenant, on ne parle plus de ça. On parle plus d'un CSS qui a une vocation, si on veut, ou une mission multivocationnelle, soit CH, CHSLD, CLSC. On parle aussi des CSS, des centres de réadaptation, des CHU, des CHA. Bon, tous ces gens-là doivent tenir un dossier sur l'usager. Le dossier de l'usager est confidentiel. Et on ne peut communiquer les renseignements que le dossier contient, à moins d'obtenir le consentement de la personne, ou encore dans les cas prévus à la loi, qui sont des exceptions à la règle du consentement. Dans la loi Santé et services sociaux, avant, on disait bon, que le dossier de l'usager était confidentiel, qu'on ne pouvait pas le communiquer sans consentement de l'usager, à moins d'un ordre d'un tribunal, d'un coroner, ou dans les cas prévus à la loi, où sa communication était requise. Or, pour trouver ces cas de communication-là qu'on pouvait faire sans le consentement des usagers, c'est vraiment fruit dans toute la loi pour essayer de répertorier ces cas-là. Alors, quand on a rédigé le projet de loi 83, à la suggestion de la Commission d'accès à l'information, on a énuméré à l'article 19 de la loi Santé et services sociaux tous les cas de communication, des renseignements contenus au dossier des usagers sans son consentement. Donc, tous les cas maintenant sont prévus à l'article 19. Si on a un cas où on se pose la question, si c'est un cas de communication sans consentement, on regarde à l'article 19, c'est pas là, c'est parce que ça n'existe pas. À moins qu'on soit dans une autre loi, par exemple la loi sur l'assurance automobile, ou la loi sur la protection de la jeunesse, ou la loi sur les accidents de travail, où là, on va venir déroger à l'article 19. On va dire, malgré l'article 19, un établissement doit communiquer telle partie du dossier de l'usager pour des fins, par exemple, d'évaluation d'une incapacité physique. Mais en principe, l'article 19 prévoit tous les cas de communication sans consentement. On a prévu, on a amélioré un petit peu ce qui touchait les ententes de services qui étaient possibles entre l'établissement et des tiers. Et là aussi, on prévoit des cas de communication sans consentement de l'usager pour la prestation de services. Par exemple, je suis dans un établissement, dans une région éloignée. Je n'ai pas les ressources qu'il faut pour offrir des services de pharmacie, par exemple. Je peux faire une entente de service avec la pharmacie du coin. Et nécessairement, si j'ai une entente de service avec la pharmacie du coin pour offrir aux usagers de mon établissement des services pharmaceutiques, je pourrais, moi, établissement, communiquer des renseignements qui sont contenus au dossier de l'usager sans son consentement. C'est un petit peu ce qu'on vise avec les ententes de service. Je vais aller très, très, très rapidement parce qu'on n'aura pas le temps d'aborder les services régionaux. Et on est venu aussi encadrer un petit peu les services de télésanté pour être en mesure d'offrir des services spécialisés en région. Donc, on est venu prévoir des règles minimales pour encadrer l'offre de services qui est faite par les établissements pour rendre les services de télésanté. Alors, il y a plusieurs règles qui viennent encadrer ça parce qu'on voulait, par les règles qu'on a introduites, vraiment assurer la qualité des actes, le contrôle des actes professionnels qui étaient dispensés dans le cadre des services de télésanté. On a prévu aussi au niveau, si on se rapporte à la colonne de droite, le mission général des agences, on sait que plusieurs établissements confiés à des agences de santé, ce qu'on appelait autrefois les régies régionales, des contrats pour la gestion de leurs données informationnelles, alors que ça faisait un petit l'égalité parce que les agences n'étaient pas autorisées à offrir ce genre de service-là, pas plus que les établissements pouvaient communiquer aux agences, aux technocentres, des renseignements contenus au dossier de l'usager pour gérer ces données-là. Donc, on est venu prévoir une habilitation spéciale pour permettre aux agences d'offrir des services de gestion de ressources informationnelles et permettre aux établissements, lorsqu'elles donnent ce type de contrat-là, de pouvoir communiquer les renseignements qui sont contenus au dossier de l'usager pour la gestion de leurs ressources. On a prévu aux articles 27.1 et 27.2 de la loi différentes règles assez strictes que le contracteur doit respecter lorsqu'on lui octroie un contrat ou un mandat. Ensuite, on est venu prévoir aussi ce qu'on appelle les PACS, les systèmes partagés d'archivage, de communication, des examens d'imagerie, puisqu'on se rendait compte que l'archivage des images, comme ça, des radiographies dans les établissements, posait un certain problème, comme tel, et de voir le réseau dans chacun des établissements, mettre des équipements pour pouvoir archiver ces images-là, c'était très, très dispendu. Alors, la vision, c'était qu'on puisse, sur les territoires des RUIS, le réseau universitaire intégré de services, encore une fois, donner des mandats à ces RUIS-là de pouvoir conserver les images des établissements. Donc, les établissements devront, dans un certain délai que le ministre va déterminer, communiquer ou transférer leurs images sous la responsabilité des RUIS pour des fins d'archivage. Donc, ça va venir aussi faciliter là, toutes les questions de requêtes qui sont faites par des cliniciens au niveau des images. On a prévu quelque chose au niveau du registre des dons d'organes détenus par la Chambre des notaires pour constituer un registre des dons d'organes pour permettre aux personnes, lorsqu'elles sont, par exemple, à l'occasion d'un testament, elles pourront aussi exprimer un don d'organes parce qu'on sait qu'au Québec, toute la question de la cueillette des dons d'organes, c'est assez difficile. Tout le monde a une petite carte d'assurance maladie au-dessus de laquelle on peut inscrire un don d'organes. Ça fonctionne plus ou moins bien. Donc, on a développé l'outil qui est le registre des dons d'organes, qui est offert par la Chambre des notaires. Il semble-t-il qu'ils ont un certain succès avec ce registre-là, parce que ça permet aux gens d'être sensibilisés à l'importance du don d'organes. Et les gens, probablement, lorsqu'ils font un testament, sont peut-être en meilleure disposition pour le faire. Et on va voir tantôt dans les services régionaux, on a un autre véhicule aussi qui vise à favoriser le don d'organes. On va le voir un petit peu plus tard. Le reste, ça touche vraiment les services régionaux les services régionaux de conservation, qui touchent le reste, les services d'identification, d'authentification, toutes les nouvelles responsabilités qui sont faites autant aux établissements qu'aux différents intervenants du réseau de transmettre des informations dans ces dossiers-là. On va voir ça de façon plus détaillée là, dans les prochaines diapositives. Alors, les services régionaux de conservation, ça, c'est un petit peu une table des matières, on va passer rapidement, parce que... j'aimerais ça d'abord faire une mise en contexte. Maître Trudel vous a dit que j'avais été responsable de l'élaboration de l'avant-projet de loi sur la carte santé du Québec. On sait que cet avant-projet de loi a été abandonné pour différentes raisons que je vais vous expliquer et vous dire en quoi ces raisons-là qui ont amené l'abandon de l'avant-projet de loi nous ont orientés dans ce qui est proposé avec les services régionaux de conservation. Dans l'avant-projet de loi sur la carte santé, on poursuivait une double finalité, c'est-à-dire une finalité clinique et une finalité administrative. Je vais vous dire que le projet de carte santé, ce qu'on faisait, c'est qu'on instituait un résumé des renseignements de santé pour chaque Québécois. Donc, chaque personne qui avait un statut de personne assurée au sens de la loi sur l'assurance maladie, on leur constituait un résumé des renseignements de santé, ce qu'on appelle un opting-out, en ce sens que tout le monde en avait un, et si je n'en voulais pas, je devais signifier ma volonté que je ne voulais pas d'un tel résumé. Alors, il y avait plusieurs dispositions qui entouraient tout ça. Entre autres, on remplaçait la carte d'assurance maladie par une nouvelle carte d'assurance maladie avec microprocesseur qui permettait aux gens, entre autres, de s'identifier à différents systèmes informatiques, de manifester en ligne des consentements, ça permettait de vérifier en ligne avec la RAMQ leur admissibilité au régime. On donnait aux intervenants du réseau, quand on pense aux professionnels de la santé comme médecins, pharmaciens, dentistes, optométristes, on leur donnait aussi une carte qu'on appelait carte d'habilitation des intervenants et eux avaient comme condition pour pouvoir être rémunérés par la régie pour les services qu'ils rendaient, les services assurés qu'ils rendaient. Ils devaient aussi vérifier en ligne l'admissibilité des personnes avant de dispenser le service. Parce qu'on sait qu'actuellement, la carte d'assurance maladie, ça pourrait que pour une année, je perde mon admissibilité. vacciner, si la régie n'est pas informée, je peux toujours présenter ma carte d'assurance maladie et une date d'expiration. Et le professionnel est toujours réputé de bonne foi lorsqu'on lui présente une carte d'assurance maladie dont la date d'expiration, dont la carte de la validité est toujours, la carte est toujours en vigueur. Donc, on sait qu'on perdait, la RADQ perdait beaucoup de sous, le gouvernement perdait beaucoup de sous avec ça. On voulait donc obliger les professionnels à vérifier en ligne l'admissibilité des personnes. Quand on a présenté l'avant-projet de loi, les gens ont dit, est-ce que le gouvernement, son intention est véritablement d'améliorer la qualité des services qui sont rendus aux personnes par l'introduction d'une carte santé, ou si on ne veut pas mieux contrôler l'administration des différents régimes? Et ça posait beaucoup, beaucoup de problèmes à différents niveaux. Alors, pour vous dire que lorsqu'on écrit le projet de loi 83 pour introduire les services régionaux de conservation, la seule finalité qui était poursuivie, c'était vraiment la prestation de services de santé, même pas de services sociaux, parce que aussi ça posait beaucoup, beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de groupes qui étaient venus en commission parlementaire pour invoquer différentes raisons. Au niveau toujours de la protection de la vie privée, de certains renseignements jugés plus sensibles. Donc, on a vraiment limité les services régionaux de conservation. Pour les fins de discussion, appelons le dossier santé électronique, là, une finalité unique qui est la prestation des services de santé. Ça ne peut pas servir même à des fins de recherche, par exemple. On ne pourrait pas utiliser les renseignements qui sont dans ces systèmes-là pour des fins de recherche. Donc, pour encore pour la santé publique, ou c'est vraiment toujours, on peut les utiliser dans le cadre d'une prestation de services de santé. On sait aussi que ce résumé de renseignements de santé-là était centralisé. On avait une banque centralisée de tous les renseignements de santé des Québécois. Là aussi, ça posait beaucoup de problèmes. On peut être pour, on peut être contre. Ce qui avait été invoqué et retenu par, je dirais, le politique, c'est que la banque centralisée, ça posait beaucoup de problèmes au niveau, entre autres, de la sécurité, de savoir que tous les renseignements de santé de tous les Québécois étaient à un même endroit. Si jamais il y avait une intrusion, qu'il y avait un hacker qui réussissait à rentrer dans cette banque-là, on mettait en péril les renseignements qui étaient conservés dans cette banque centralisée-là. Alors, ce qui était convenu de faire pour les services régionaux de conservation, de conserver les données sur une base régionale. Donc, les données sont conservées toujours sur le territoire de l'agence de santé où les services sont rendus. Concrètement, je suis à Montréal, je sors d'ici tantôt, je me blesse, et on me passe des radiographies, les résultats vont être conservés à l'agence de Montréal. Je m'en vais à Montréal demain, à Montréal de Québec, et ça se complique un petit peu. On voudrait voir le résultat de radiographie. On va venir chercher le résultat par différents moyens que je vais vous expliquer tantôt à l'agence de Montréal. Mais disons que dans l'établissement où je suis, on m'administre des médicaments. Les médicaments vont être conservés à l'agence de Québec. Donc, les renseignements sont conservés toujours sur le territoire de l'agence où les services me sont rendus. Donc, renseignements conservés sur une base régionale par territoire d'agence et non plus une banque centralisée. Puis on peut avoir des grosses discussions là-dessus, savoir est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pire, est-ce que les investissements que l'on consent pour constituer 18 banques régionales, est-ce que c'est mieux que d'avoir un seul budget pour une banque centralisée? Est-ce que les moyens que chacune des agences va prendre, malgré que les règles sont uniformes, est-ce qu'elles vont être appliquées de la même façon? On peut se poser aussi la question. Mais la décision est que c'est un système décentralisé. Cette banque centralisée-là était sous la responsabilité de l'RMQ. Encore là, les gens disaient, bon, l'RMQ, c'est d'abord un administrateur de régime, soit de régime de France Maladie, de France Médicaments, ou d'autres programmes que le gouvernement peut lui confier, mais toujours en relation avec la santé. Et là, on disait, bon, l'RMQ va avoir les données de santé de tous les Québécois, ça n'a pas de bon sens, il me semble que ce n'est pas cohérent ou ça ne s'inscrit pas dans la mission de l'RMQ. Alors, ce qui a été décidé dans ce cas-ci, c'est de mettre les renseignements qui sont conservés dans chacune des agences, chacun des territoires d'agence, sous la responsabilité d'un directeur des services professionnels qui, lui, est un clinicien et qui comprend peut-être bien, il apparaissait qu'il pouvait être un meilleur fiduciaire des données de santé des Québécois. Je vous en ai parlé tantôt, tout le monde avait un résumé des renseignements de santé. Si on n'en voulait pas, il fallait manifester son intention de ne pas en avoir. Alors, la décision qui a été prise ici, c'est que ceux qui voudront bénéficier des services régionaux de conservation, ceux qui voudront avoir un dossier de santé électronique, devront manifester un consentement pour obtenir ce fameux dossier santé électronique-là. Dans l'avant-projet de loi de la carte de santé, c'était aussi très compliqué la gestion du consentement, parce que donc, tout le monde avait un résumé, mais une fois qu'on l'avait, on pouvait demander à l'intervenant de ne pas inscrire une information, par exemple. On pouvait même retirer des informations de ce fameux dossier-là. Alors, les cliniciens ont dit, si le dossier n'est pas complet, il est évident que nous, on ne pourra pas s'y fier, parce qu'il va nous manquer probablement des informations importantes qu'on devrait savoir, on n'utilisera pas l'outil. Alors, la décision qui s'est prise ici, c'est de dire, si les gens consentent à obtenir un dossier de santé électronique, voici quelles sont les règles. Et lorsque vous êtes en présence d'un intervenant qui vous dispense un service de santé et que lui, devant l'un des renseignements que comprend les services régionaux de conservation, il y a une obligation pour l'intervenant de transmettre le renseignement dans ces bases de données-là. Donc, il n'y a pas le choix, il y a une obligation de transmettre et la personne n'a pas le choix de savoir si la donnée lui convient ou ne lui convient pas de le mettre dans son dossier. Donc, c'était le choix pour permettre vraiment aux intervenants d'avoir des renseignements qui sont vraiment, on a jugé les plus utiles. On va voir quels sont ces renseignements-là tantôt. Utiles, sont pertinents et sont fiables parce qu'ils sont aussi complets et l'intervenant pourra s'y fier. On avait dans les résumés des renseignements de santé un nombre étendu de renseignements. On avait entre autres les diagnostics, on avait les antécédents personnels, familiaux, on avait le parcours de service. Et là encore, les gens ont dit que c'est très intéressant vivre dans la vie des gens, de connaître les diagnostics, savoir quel parcours de service fait. Bon, moi, je suis allée à Hippolyte Lafontaine, j'ai vu tel soin à tel endroit. On pouvait vraiment savoir tous les services qu'une personne avait reçus, de quel endroit, de quel type d'établissement. Et on pouvait aussi, par règlement, venir ajouter d'autres catégories de renseignements. Même chose pour les intervenants qui pouvaient avoir accès à ces renseignements-là. C'est un nombre étendu de d'intervenants, les gens disaient que tout ce qui manque à la liste, c'est à peu près le concierge. C'est le seul qui n'est pas énuméré dans la liste des intervenants. Et en plus, on s'est donné un pouvoir réglementaire pour pouvoir ajouter d'autres intervenants par règlement. Alors ici, on s'est vraiment restreint, c'est-à-dire que la loi énumère les catégories de renseignements que l'on va retrouver dans les dossiers santé électronique, mais ces catégories-là, les renseignements que chacune des catégories comprend, pourrait être complété par règlement. Donc, nécessairement, ça va être des renseignements de même nature. Je ne pourrais pas rajouter des renseignements qui n'ont pas rapport avec la catégorie. Donc, des catégories limitées dans la loi, je ne peux pas en ajouter d'autres. Et on ne retrouve plus les diagnostics, on ne retrouve plus les antécédents familiaux, on ne retrouve plus le parcours de service. Si jamais tout le monde, il y avait un consensus et que tout le monde voulait rajouter un jour les diagnostics, il faudrait aller modifier la loi pour venir rajouter les diagnostics. Même chose pour les intervenants, compte tenu qu'on a le cadre d'une prestation de services de santé, on voulait limiter les intervenants à ceux qui dispensaient des services de santé et les intervenants qui étaient jugés les plus pertinents, encore là une fois, et sont vraiment une liste limitative dans la loi. On ne peut pas par règlement venir ajouter d'autres intervenants. Donc le processus est quand même assez, assez transparent au niveau de... Des règles de fonctionnement, il n'y aura pas de surprise qu'on pourra faire des choses par règlement qu'on n'aurait pas vu dans la loi. On sait que l'adoption de règlement, le processus d'adoption est beaucoup plus simple qu'une loi et qu'il est arrivé souvent pour l'avoir vu, moi, ou en public durant l'été où tout le monde est parti en vacances, puis que faire des commentaires, ça devient un petit peu illusoire. Alors, les objectifs poursuivis par les services régionaux de conservation, c'est vraiment de fournir en temps utile aux intervenants, on voit, tantôt c'est quoi la définition d'intervenant habilité, mais de l'information qui est pertinente par le type de renseignement qu'on va comprendre, les dossiers santé électronique, bon, intégrés, organisés, à jour, toujours dans le respect du cadre juridique qui est prévu à la loi, c'est de faciliter l'accès aux services, la prise en charge des usagers, la continuité, la complémentarité des services sur un dossier santé électronique et que je peux aller chercher l'information de diverses voies, peu importe l'information se retrouve sur le territoire du Québec. Compte tenu aussi qu'on sait que l'organisation des services font en sorte qu'il n'y a pas juste un intervenant qui nous dispense des services, il y a une multiplicité d'intervenants parce que maintenant on travaille plus en complémentarité. Donc, je vais pouvoir toujours savoir quel type d'intervention l'intervenant précédent a fait, ce qui permet d'assurer une meilleure continuité, de prendre de meilleures décisions parce que quand on connaît entre autres la liste des médicaments qu'une personne prend, ça permet de prendre de meilleures décisions. On va voir tantôt le type de renseignement aussi. Quand on parle des résultats de laboratoire, on va parler des résultats d'examen d'imagerie médicale. Aussitôt que l'examen, le résultat de laboratoire va sortir des systèmes informatiques, parce que ce que l'on vit, c'est vraiment des alimentations par des systèmes informatiques. Donc, aussitôt que la donnée sort du laboratoire, va être dans le dossier santé électronique, ce qui fait que l'intervenant va avoir le résultat très, très rapidement par rapport à aujourd'hui. Donc, intervention plus rapide. si on pense qu'aujourd'hui, vous rentrez chez un médecin, on va vous poser peut-être, si vous prenez le temps, plusieurs questions qu'il n'aura plus à vous poser. On risque peut-être d'accélérer le temps de prise en charge des personnes, peut-être faciliter par le fait même un meilleur accès aux services. Donc, qui permettent bien sûr, avec le consentement des personnes, la constitution de ces dossiers santé électronique-là. Alors, je vous dirais d'emblée que toute la question de la protection de la vie privée, protection des renseignements personnels, a été un guide très, très important dans l'élaboration du projet de loi. Et je vous dirais un fort pour les parlementaires qui ont adopté aussi le projet de loi à l'unanimité. Parce qu'on a mis beaucoup, beaucoup dans le projet de loi des garanties juridiques, des garanties technologiques. On va le voir tantôt, que certains trouvent un petit peu peut-être poussé, mais moi, en tant que légiste, comme j'avais un petit peu mon mot à dire dans ce projet-là, ce n'est pas toujours le cas, j'ai insisté beaucoup, beaucoup pour que les méthodes qu'on prend d'identification, d'identification des intervenants assure vraiment un accès très, très sécurisé à ces actifs informationnels. On va le voir tantôt, là, et pour vous dire que c'est vraiment une préoccupation très grande. J'ai fait un petit schéma pour vous dire en quoi je pense que c'est un système qui est équilibré entre le respect du droit à la vie privée et la nécessaire circulation de l'information de santé. Je vous l'ai dit, finalité unique. Sauf qu'après l'adoption du projet de loi en novembre 2005, en décembre 2005, on est venu modifier la loi sur l'assurance médicaments pour permettre à l'RMQ, parce qu'on va voir que l'RMQ, elle, va conserver tous les renseignements qui concernent les médicaments qui sont délivrés en pharmacie communautaire. Pharmacie communautaire, c'est la pharmacie Jean Coutu, Brunet, Uniprix, par rapport à des médicaments administrés, ça c'est ceux qui sont donnés aux patients dans un établissement. Donc, la RAMQ, elle, va corriger tous les renseignements concernant les médicaments, autant des personnes qui sont assurées par le secteur privé que par le secteur public. Parce qu'actuellement, ce qu'elle recueille, c'est des renseignements concernent, si on veut, les médicaments, mais pour des fins de facturation. Donc, elle n'a pas tout encore ce que les services régionaux de conservation vont prévoir. Et la loi sur l'assurance maladie permettait à la RAMQ de communiquer au Conseil du médicament sous forme non nominative les renseignements qu'elle colligeait, toujours pour les fins de facturation, là, au Conseil du médicament dans le cadre de la mission du Conseil qui est vraiment l'utilisation optimale des médicaments. Avec l'avenue des services de conservation, le Conseil du médicament a dit bien, maintenant que la RAMQ a les données du privé, et lorsqu'on fait nos études, on a juste une partie de la vision de la consommation du médicament au Québec, parce qu'on sait que la clientèle qui est assurée par la RAMQ sont les prestataires de la sécurité du revenu, les personnes âgées et les personnes qui ne bénéficient pas d'un régime d'assurance collective. Donc, souvent, les personnes, les clientèles un petit peu marginalisées par rapport à des conditions peut-être moins favorables que ceux qui peuvent bénéficier de conventions collectives. Donc, le législateur, pour ce cas-ci, a trouvé que c'est une exception qui se justifiait de permettre au Conseil du médicament d'obtenir de la RAMQ tous les renseignements concernant les médicaments qui sont délivrés par les pharmaciens en pharmacie communautaire, mais sous forme non nominative pour les fins de ces missions. On va voir que le consentement aux services régionaux, si je veux obtenir un dossier santé électronique, je devrais manifester mon consentement. Ce consentement-là va avoir une durée de 5 ans, qui est bien sûr renouvelable et révocable aussi en tout temps. Je vais en parler de façon plus précise, mais c'est juste pour vous dire quels sont les éléments qui font en sorte qu'on peut dire ou affirmer que la protection des renseignements personnels est assurée. On a des catégories de renseignements restreints, donc la loi restreint les renseignements qu'on peut publier. On va voir aussi que des périodes d'utilisation de conservation qui sont prévues, qui sont délimitées, des règles très strictes au niveau de l'utilisation, de la communication qui peut être faite de ces renseignements-là. Et j'aimerais juste dire, quand on parle de règles d'utilisation de communication, les services régionaux, ça constitue une section dans la loi, et ce régime juridique qui ne s'applique qu'aux services régionaux de conservation. Les gens ont tendance, en tout cas dans les projets, parce que moi je travaille beaucoup les architectes, tous les technologues, puis eux, ils voient une disposition dans une loi, ça fait leur affaire, puis apprennent qu'ils ne regardent pas si ça s'applique au dossier de l'usager ou si ça s'applique au dossier santé électronique. Il faut donc vraiment faire les distinctions. On ne peut pas prendre des règles qui sont prévues, à moins que la loi le prévoit de façon spécifique, là, mais des règles qui concernent le dossier de l'usager pour dire, ah, si on peut faire ça dans les services régionaux de conservation, ou prendre des règles concernant le dossier santé électronique, dire, ah, tiens, c'est une fois qu'on pourra faire ça aussi le dossier de l'usager. C'est vraiment deux régimes juridiques distincts particuliers. On va voir que pour pouvoir avoir accès à ces données-là, ça va prendre un système d'identification, d'authentification très fort des intervenants. Il n'y a pas d'accès qui est permis à ces renseignements-là soit pour les transmettre dans les services régionaux, pour en recevoir communication, ça n'a pas d'habilitation, ça n'a pas un profil d'accès qui nous permet de transmettre les renseignements ou d'en recevoir communication. Et tous les renseignements qui sont transmis dans ces services-là doivent être signés par l'intervenant. Ils vont voir que la technologie qu'on a prévue dans la loi permet d'apposer une signature au sens juridique du terme, au sens du Code civil du Québec, et que tout ce qui est fait dans ces dossiers-là, autant quand on transmet l'information, quand on en reçoit, tout est journalisé. C'est-à-dire qu'on peut toujours savoir en tout temps qui a transmis l'information, à quel moment, et qui a reçu l'information et à quel moment. Je pense que c'est l'ensemble des principales règles là, qui nous permettent vraiment d'affirmer que la protection des renseignements personnels est assurée. Alors, le consentement, bon, libre et éclairé, la commission d'accès à l'information est encore intervenue dans le projet de loi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent lorsqu'on adopte des projets comme celui-là. Libre et éclairé en ce sens que la commission d'accès à l'information nous est obligée à introduire une disposition qui dit, grosso modo, que avant de pouvoir manifester un consentement, la personne doit vraiment être informée des finalités de ce service-là, de toutes les règles de fonctionnement concernant les services régionaux de conservation. Donc, actuellement, on travaille sur un formulaire de consentement, et on travaille aussi sur un document d'information qui va être distribué grand public pour leur faire connaître à quoi servent les services régionaux, dans quelle façon ça peut être leur utile, et c'est quoi les différentes règles de fonctionnement. Ce qui nous retarde actuellement, c'est que les règlements, parce qu'on a des règlements pour venir compléter les catégories de renseignements, on a des règlements pour définir les profils d'accès des intervenants qui sont là, qui ne sont pas encore de tout en cours d'élaboration. Donc, on ne peut pas débuter les campagnes de sensibilisation tant aussi longtemps que ces règlements-là ne seront pas adoptés pour que les gens qui ont manifesté un consentement, pour qu'ils soient libres et éclairés, devront connaître toutes les règles de fonctionnement, à savoir si une infirmière a le droit d'accès. Elle a droit à quoi? Est-ce qu'elle a droit à tout ou pas? Est-ce qu'elle peut tout transmettre l'information ou pas? Donc ça va être vraiment là, réglementé là, par règlement. Et on devra attendre que ce règlement-là soit adopté pour qu'on puisse bien informer les personnes sur comment ça va fonctionner. C'est qui a accès, qui peut transmettre, quels sont les renseignements qu'on pourra codiger, quelles sont les durées d'utilisation, parce que la durée d'utilisation des renseignements aussi va se faire par règlement. Révocable en tout temps. Puis comme je ne vous en ai pas parlé. Le consentement est recueilli au niveau local. Je sais qu'il y a eu des conférences qui ont été données par d'autres avocats et certains ont affirmé que le consentement devait être donné sur chacun des territoires d'agence où c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le consentement est donné une seule fois. Je pense que j'ai un petit diagramme ici qui explique comment ça fonctionne. Le consentement est donné une fois. Et il vaut pour tout le territoire du Québec. C'est la RAMQ qui va ce qu'on appelle le fichier des consentements et des révocations de consentement, qui va permettre de toujours, avant de pouvoir transmettre de l'information, en recevoir communication, aller vérifier auprès de ce registre-là si la personne a donné un consentement et si le consentement est toujours valide. Parce qu'il se pourrait qu'il soit révoqué, il se pourrait qu'il soit expiré. Donc, on doit toujours d'abord obtenir une confirmation que le consentement est toujours valide. Alors, quand on recueille le consentement au niveau local, comment ça va se passer? Comme on n'a pas au Québec de méthode d'identification, d'authentification forte, ça nous prend un système aussi fort pour les usagers que ce qu'on a mis pour les intervenants. Comme on n'a pas de système d'authentification là, très fort pour les usagers, pour pouvoir manifester en ligne un consentement, la personne va se présenter devant une personne. On définit dans la loi quelles sont les personnes qui vont être habilitées à recueillir ce consentement-là. On va se présenter devant la personne. La personne devra d'abord vérifier est-ce que c'est une personne assurée au sens de la loi sur l'assurance maladie, parce que seules les personnes qui ont ce statut-là pourront obtenir le dossier santé électronique. Donc, les autres personnes, qu'on pense aux touristes, par exemple, ces personnes-là ne pourraient pas obtenir un dossier santé électronique. Elle vérifie auprès du fichier, bon, c'est ça le FICA, c'est le fichier d'inscription des personnes assurées à la Régie de l'assurance maladie pour voir quel est son statut. Si on a une confirmation de la personne comme personne assurée, on va faire signer sur un document papier le consentement de la personne. Une copie est remise à l'usager, l'intervenant en garde l'original et transmet en ligne la demande d'inscription au fichier des consentements de la personne en question avec son nom, prénom, numéro d'identification unique, la date où elle a manifesté un consentement pour qu'on puisse effectivement voir, pouvoir appliquer le fameux délai de 5 ans. Donc, c'est un petit peu le processus qui est suivi pour recueillir le consentement des personnes. Jusqu'à date, ça va bien? Pas de question? C'est pas... C'est, c'est compréhensible, oui. OK. La conservation de certains renseignements, quels sont les renseignements qui vont être conservés dans les services régionaux de conservation? Vous avez les données d'identification de la personne, les coordonnées des contacts professionnels. Là-dedans, on pourrait retrouver, par exemple, quel est mon médecin traitant, quel est le nom de la pharmacie que je fréquente le plus récemment. J'ai subi, par exemple, une intervention chirurgicale il n'y a pas longtemps. Je pourrais introduire dans cette catégorie-là le nom de mon chirurgien. Ce qui est important de mentionner, c'est qu'au niveau des coordonnées des contacts professionnels et des données d'urgence, les renseignements que l'on va retrouver dans ces catégories-là, ce sont les renseignements que la personne va convenir de mettre dedans. Donc, c'est elle qui choisit quels sont les renseignements que l'on retrouve là-dedans. Si moi, par exemple, je suis suivie par un psychiatre, puisque je ne veux pas mettre le nom de mon psychiatre dans mes coordonnées des contacts professionnels, je pourrais ne pas le mettre. C'est plus pour faciliter la communication entre les intervenants lorsqu'ils prennent en charge quelqu'un, par exemple, c'est plus l'objectif. Et pour les coordonnées des contacts professionnels, c'est la personne qui convient de ce qu'elle met dedans. Contrairement aux autres données, sauf les données d'urgence, on va en parler, quand un intervenant se trouve en présence d'une allergie, pour une personne qui a consenti à avoir un dossier santé électronique, il y a l'obligation de transmettre l'information concernant l'allergie dans ce dossier-là. Alors, allergie, intolérance, tous les résultats d'examen de laboratoire, on va les retrouver dans le dossier, les résultats d'examen d'imagerie médicale, les médicaments, autant ceux qui sont administrés à l'établissement, ceux-là vont être conservés vraiment toujours dans les agences, de l'agence, du territoire d'agence où le médicament a été administré, sauf les médicaments en pharmacie communautaire, là, c'est la RAMQ qui le fait. Pourquoi on a fonctionné comme ça? Parce que la RAMQ, compte tenu de son rôle d'administrateur du régime d'assurance médicaments, est en lien avec tous les pharmaciens. Donc, il était facile pour la RAMQ de mettre peut-être ce service-là en place assez rapidement, vu qu'elle était en lien pour tout ce qui concernait les médicaments délivrés à des personnes assurées par le secteur public. Mettre les personnes assurées par le secteur privé, ça ne posait pas vraiment de contraintes. Donc, on a mis tout ce qui était médicaments, pharmacie communautaire, sous la responsabilité de la RAMQ. On va voir aussi, là aussi, les nuances qu'on doit faire. On retrouve aussi là-dedans les données immunologiques et les données d'urgence. Données d'urgence, c'est des gens qui pensaient le terme est peut-être mal choisi, puis c'était des données qui étaient accessibles seulement en situation d'urgence. Ce n'est pas le cas. C'est des données qu'effectivement, si on devait me prendre en charge et que je ne pouvais pas manifester ou indiquer des choses, ce serait utile d'avoir ces renseignements-là, mais ça peut être n'importe quoi, puis c'est la personne qui va convenir. Si, par exemple, je veux mettre dedans un diagnostic parce que je suis diabétique, par exemple, ou je suis épileptique, ou ce serait important que les gens le sachent, ils pourront les mettre dans les données d'urgence. Si j'ai un implant cardiaque, on pourrait indiquer dans les données d'urgence que j'ai un implant cardiaque. Dans ces données d'urgence-là, on pourra aussi indiquer tout ce qui touche les dons d'organes. Tantôt, je vous disais, il y avait trois véhicules, la carte d'assurance maladie, le registre des dons d'organes des tissus qui est tenu par la Chambre des notaires. Et dans les données d'urgence, les personnes qui voudront indiquer un don d'organes pourront le faire dans cette catégorie-là. Parce qu'on peut penser qu'il y a des personnes qui n'auront jamais rencontré un notaire pour faire un testament, donc ils ne seront jamais sensibilisés à l'importance du don d'organes, ils ne pourront pas manifester le don d'organes. La carte d'assurance maladie, c'est plus ou moins suivi par les professionnels, semble-t-il, que lorsqu'une personne exprime un don d'organes au berceau de ses cartes d'assurance maladie, lorsque la famille s'oppose, ils ont tendance à suivre les volontés de la famille plutôt que de la personne concernée. Donc ça pourrait être un autre véhicule là, où on pourrait exprimer le don d'organes. Donc, deux catégories, coordonnées, données d'urgence, c'est vraiment des renseignements que moi, je conviens de mettre dedans. Pour ce qui est du reste, tous les renseignements qui vont être déterminés par règlement, parce que dans la loi, on prévoit déjà des renseignements, mais les catégories ne sont pas complètes, puisqu'au moment où on a rédigé la loi, on ne savait pas trop, là, on n'avait pas une idée complète de ce que chacune des catégories pourrait comprendre. On s'est donné un pouvoir réglementaire, donc le règlement va venir compléter les renseignements qui sont déjà prévus à la loi. Donc, ce sont les données qu'on va retrouver dans les dossiers santé électronique. Donc, on voit qu'il n'y a pas de diagnostic. Bien sûr, les médicaments peuvent donner une bonne indication du diagnostic. C'est bien évident. Pardon?
Si je prends du lithium, vous allez savoir ce que j'ai comme problème.
Oui. Mais ce que je disais tantôt, c'est que les intervenants, ce qu'ils disent, c'est que si on n'a pas l'information complète, si vous prenez du lithium, on veut vous préférer autre chose qui aurait comme une interaction médicamenteuse qui pourrait être nuisible à votre santé. Il faut qu'ils le sachent. C'est contrairement au résumé des renseignements de santé où tout le monde avait un, les gens ont le choix que les gens qui ont des informations qu'ils ne veulent pas partager, ils n'en auront pas de résumé de ce type de dossier-là. Parce que moi, je pense que le dossier santé électronique, bon, il y a plusieurs conditions de succès. Mais personnellement, je pense que ça va viser des personnes, par exemple les jeunes enfants, ou ce genre de dossier-là peut être utile, puis les personnes qui sont vraiment des maladies chroniques. Quelqu'un qui est relativement en santé, probablement qu'ils n'auraient pas l'intérêt d'avoir un dossier comme ça. Mais quelqu'un qui a une maladie chronique, il n'a pas nécessairement intérêt à cacher certains renseignements de santé parce que, surtout au niveau du médicament, il peut y avoir des interactions qui ne sont pas souhaitables et qui peuvent aller à causer jusqu'à la mort finalement. Mais, en tout cas, c'est l'information qui est importante. Hein.
C'est qu'en fait, le législateur a choisi entre tous les groupes qui s'objectaient au nom de la protection de la vie privée et tous les groupes qui étaient en faveur au nom de prodiguer des soins les plus efficaces possibles. Le choix était clair parce que moi, j'ai lu tous les mémoires présentés à la commission parlementaire. Il y avait deux camps retranchés. Là, c'était vraiment des oppositions méthodiques et le choix a été fait de passer outre aux objections finalement de la plupart des organismes qui défendaient les personnes.
Mais moi, parce que moi, je sais qu'il y a des régions, comme par exemple dans la région de Gatineau, des associations de défense des personnes qui souffrent, par exemple, de maladies mentales, où on dit à leurs membres, n'adhérez pas à ce dossier-là, parce qu'on va connaître, etc. Parce que les gens, ce qu'ils disaient en commission parlementaire, ce type de clientèle-là, c'est que on subit une discrimination. Quand les gens savent qu'on souffre de maladies mentales, l'intervenant nous prend plus ou moins au sérieux. L'intervenant nous rend pas les mêmes services. Exactement. Moi, j'ai l'impression, peut-être, que ce sont les personnes qui ne vont pas bénéficier de ce service-là. C'est un service qui est offert. Les gens ont le choix d'y adhérer ou pas. Mais le médicament, quand on parle aux intervenants, ce qu'ils disent, ce qui est le plus important pour eux de connaître, c'est vraiment les médicaments. C'est la chose la plus importante parce qu'on en prend tous des médicaments pour un rhume, pour peu importe. Quand on arrive, je ne sais pas, ça ne peut pas fonctionner, on rencontre un autre médecin parce qu'on n'a pas de médecin de famille, on se retrouve dans la clinique sans rendez-vous. Quel médicament vous prenez? Je ne sais pas, être comme moi, je ne m'en souviens jamais. Petite pilule, orange et noire. Mais quand on regarde les chiffres au niveau des conséquences des interactions médicamenteuses, c'est très, très, très important. Donc, moi, je pense. Ce que je devrais dire, c'est que le dossier santé électronique ne vient pas remplacer les dossiers locaux. Un dossier local dans la clinique médicale de votre médecin demeure. Le dossier local de l'établissement demeure. Le dossier santé électronique, c'est une copie de ces renseignements-là qui proviennent des dossiers locaux des établissements ou des cliniques. Ce ne sont qu'une copie. Et si je juge que ce service-là peut m'être utile, moi, parce que je peux répéter mon histoire à tout le monde, j'ai besoin de soins, je suis prêt à partager mon information de santé. C'est un outil qui m'est offert pour l'intervenant, c'est un outil d'intervention aussi qui est très, très intéressant, parce que pas reposer des questions aux personnes, mais de l'information qui lui parvient rapidement. Parce qu'on passe à un résultat de laboratoire, un résultat d'examen d'imagerie médicale, vous allez passer l'examen, mais il va savoir le résultat peut-être 3, 4, 5, des pas 10 jours après, puis ce même document-là va se promener par taxi, va se promener par fax, va se promener n'importe où, hein. Quand on regarde ça. Donc, c'est vraiment, ce dossier-là ne remplace pas les dossiers locaux. Il faut, moi, en tout cas, je dis toujours, c'est un outil qui est donné aux intervenants, c'est un outil qui est donné à la population pour tenter d'améliorer, parce qu'on pense qu'on peut, avec ce petit outil-là, améliorer la qualité des services qui sont rendus aux personnes, puis de permettre aux intervenants de rendre de meilleures décisions pour faire un ensemble d'informations qui leur permettent de prendre des bonnes décisions, de rendre de bons diagnostics. Mais personne n'est obligé de l'avoir. Mais je pense que les médicaments, je ne veux pas, c'est un élément important, comme le sont les résultats de laboratoire d'examen des médicaments.
Comment vous allez vous assurer que les médecins vont véritablement transmettre? Parce que toutes les études qui ont été faites sur toutes les expériences pilotes montraient que des résistances de celles des médecins, parce que d'abord, tous les médecins qui sont pas nés à l'âge électronique, oui. Ils vont confier ça à leur secrétaire.
Moi, je pense qu'au niveau du projet comme tel, vous savez que le ministre avait annoncé que c'est un projet de 546 millions à peu près. Et dans ce projet-là, le défi, c'est la gestion du changement, justement. C'est parce que moi, je pense que je parle toujours pour ma paroisse, probablement. Mais d'abord, c'est un projet qui est juridique, c'est un projet légal. Parce que bien souvent, les technos s'emparent de ça, puis ils voient les multiples possibilités. Puis bon, c'est un projet légal et je me fais le chien de garde m'assurer que les choses se font comme c'est annoncé là, parce qu'il y a vraiment des garanties juridiques, avec vraiment des garanties technologiques. Mais le défi en soi, c'est la gestion du changement, parce que la loi crée une obligation aux intervenants de transmettre l'information sous peine de pénalité assez sévère. puis il y a des moyens pour les gens de s'assurer que s'ils ont donné un consentement à la constitution d'un tel dossier, de vérifier si l'intervenant a transmis l'information. Donc, il y a un certain suivi qui peut être fait là, au niveau des personnes elles-mêmes. C'est pour elles, c'est important. Puis, son sujet à des pénalités, on sait que c'est pas un domaine de la santé. Moi, pour avoir travaillé en compte à la régie, on avait des dispositions pénales sur plein d'affaires. On n'a pas poursuivi grand monde bien souvent, là, sauf des cas de fraude épouvantables. L'obligation est dans la loi. Une fois qu'on a dit ça, il y a des mécanismes de surveillance pour qu'on ait des pouvoirs précis à la commission d'accès à l'information. Le ministre de la Santé a des pouvoirs d'enquête de surveillance aussi. Il y a des mécanismes qui sont mis en place. On verra. Mais je pense qu'avant de parler de ça, il faut convaincre les gens, autant la population que les intervenants, des avantages, des bénéfices qu'ils peuvent en retirer. Parce que si les intervenants, ce dossier-là prend plus de temps à traiter les personnes, parce que c'est compliqué de rentrer dans le système, c'est compliqué de rentrer les données, c'est évident qu'ils n'ont pas adhéré. Mais ce que je dois dire, pour l'alimentation des dossiers santé électronique, c'est vraiment qu'on appelle l'alimentation par des systèmes souples. Donc, des systèmes informatisés, résultats laboratoires, examens, médicaments, où c'est vraiment informatisé. Les intervenants n'ont pas à faire de saisie manuelle comme telle. Bien sûr, quand on a des contacts, c'est la saisie manuelle. On va donner des pouvoirs, des habilitations aux secrétaires, dans certains cas, peut-être pour entrer des contacts professionnels, pour s'assurer que l'intervenant comme tel dans son bureau ait le moins de saisie possible. Puis l'autre défi, c'est le plan technologique, c'est que moi, quand je rentre comme intervenant, je rentre dans le portail santé, ça prend 30 secondes, ça en prend 5 pour avoir l'information, puis c'est une grosse différence. Puis plus il y aura de gens qui vont adhérer, plus les intervenants, c'est vraiment de convaincre que l'outil, c'est un outil, c'est pas autre chose, c'est un outil de communication des renseignements. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est... gestion de changement, conviction, faut que les choses soient faciles à manipuler. Il y a plusieurs défis là-dedans. C'est ça. Alors, les renseignements conservés, oui?
Quand vous dites la liste des médicaments, est-ce que vous avez un nom du professionnel qui a donné?
Oui. Donc, là, on rédige les règlements actuellement, on a le nom du prescripteur, puis on a le nom du pharmacien qui délivre le médicament, bien sûr. Bon, le nom générique du médicament, le nom commercial, la posologie, la forme, le nombre de renouvellements. Il y a une série de renseignements qui vont être prévus, là.
OK, bien, dans le fait, dans le fond, peu importe qu'on donne un contact, le professionnel, il va apparaître. Par exemple,
vous avez
pas
ça du judiciaire. Moi, du judiciaire,
non. Si on a un médicament, non seulement on va savoir tout ce qui le professionnel,
mais
peu importe qu'on est
consenti
à ce que le
cœur
soit
la personne. Oui. Oui, c'est bien.
Donc
voilà. C'est juste.
Est-ce que vous avez le règne pour les médicaments banqués ou les produits naturels?
Non. Non.
Et ça, ça influence aussi beaucoup. Les interactions médicamenteuses, vous manquez un temps fort important.
Je dois l'admettre. Non, les produits naturels ne sont pas dedans. Moi, je pense qu'il n'y a pas de réglementation par rapport aux produits naturels. Là, parce qu'à ce compte-là, on pourrait dire qu'il y a plein de choses qui, lorsque vous prenez des médicaments, qui risquent d'avoir des interactions médicamenteuses. Si vous prenez de l'alcool, vous prenez des drogues, donc drogues, ce n'est pas des médicaments, mais il y aura des interactions aussi qui vont être non souhaitables.
Mais est-ce que quelqu'un pourrait demander si ça figure dans les
catégories des... Ah, pour la première dans les urgences. Oui, pour la première dans les urgences. Parce qu'effectivement, peut-être que le médecin pourra lui poser des questions, à savoir si elle prend d'autres médicaments sous forme, quelque forme que ce soit, et il pourrait trouver pertinent ce renseignement-là, soit dans les urgences, puis demander à la personne si elle a fait ça. Ça va toujours bien? Pas trop, c'est lourd un peu parce que c'est assez technique, hein? C'est une espèce de découpage, là. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est ce que je disais, c'est une copie des renseignements qui proviennent des dossiers des établissements, des dossiers des intervenants, de la RAMQ pour les médicaments, de ce que la personne va convenir avec l'intervenant pour les contacts professionnels, pour les données d'urgence. Donc, on ne remplace pas les dossiers locaux, ça n'a pas la même vocation, pas du tout, pas du tout. Dans mon dossier local, je peux mettre des observations, je peux mettre plein de renseignements qu'on ne retrouve pas dans les services régimes de conservation. Quand je vous dis, c'est de fournir aux intervenants de l'information pertinente, voici qui a été décidé par des comités cliniques pour dire l'information la plus pertinente lorsque vous prenez en charge quelqu'un que vous ne connaissez pas, quelles sont les informations que je devrais connaître pour pouvoir intervenir intelligemment et rapidement.
Est-ce que les profils d'accès, que c'est réglé parce qu'il y a eu un débat autour de qui peut accéder à quoi? Est-ce qu'il y a une ventilation ou est-ce que dans les projets de règlement, parce que tout ça, c'est dans les projets de règlement.
Oui, la loi décidement prévoit qui peut être un intervenant habilité.
Oui, mais...
Et pour les procédures d'accès, c'est prévu par règlement. Puis là, on travaille aussi ce projet de règlement-là pour définir en fonction de chacune des catégories, quels sont les intervenants qui pourront transmettre cette information-là, ou quelles sont les personnes qui vont pouvoir recevoir. Je peux être une infirmière, par exemple, je dis n'importe quoi, mais c'est juste pour vous illustrer. Moi, je fais la vaccination, j'ai l'obligation de transmettre les renseignements contre la vaccination. Donc, je n'aurai pas le droit d'aller voir les renseignements-là. Donc, je peux avoir un droit de transmettre, mais pas de recevoir communication. Exemple. Je ne sais pas que c'est nécessairement ça qui est écrit dans la loi, parce que dans le règlement, ça ne sera pas beaucoup intelligent.
Il n'y a rien de défini encore là-dessus. Est-ce que ça a été l'objet d'un débat?
Ouais. Mais quand le débat le plus important se passait, je pense, entre les pharmaciens et les médecins, parce que les pharmaciens, eux, voulaient avoir accès au diagnostic. Et pour le médicament, dans la loi, ce qu'on dit, c'est que le diagnostic apparaît dans le dossier santé électronique si le diagnostic est inscrit sous l'ordonnance, parce que la façon élégante que les médecins ont eu de régler le problème, ils ont modifié un règlement sur l'ordonnance médicale pour dire voici ce que doit contenir une ordonnance, une prescription, puis c'est marqué au niveau de l'intention thérapeutique, si le juge utile. Donc, si le juge utile, le médecin, il va mettre l'intention thérapeutique sur l'ordonnance, et s'il est là, ça va apparaître dans le dossier santé électronique. Mais on peut penser plusieurs choses, hein? Ça ne paraîtra peut-être jamais. Donc, on n'aura pas l'intention thérapeutique parce que c'est toujours le problème du jugement que les gens portent envers leur père. Hein. C'est pourquoi il a prescrit ça, Je ne sais pas si j'aurais prescrit toute l'intention thérapeutique. Donc, le jugement professionnel, bien sûr, on tente de l'éviter. Puis, ça, on n'a pas d'obligation de le mettre. Mais c'est un débat qui dure depuis des années entre les pharmaciens et les médecins. Puis, on va voir ce que ça va donner. Donc, au niveau de la transmission, je suis un intervenant, un médecin qui dispense un service, par exemple. Je me trouve en présence d'une allergie. J'ai l'obligation de transmettre cette allergie-là. Et comme je vous disais, c'est ce que la loi dit, mais dans les faits, la loi prévoit aussi que ces mêmes renseignements-là pourront être transmis aux services régionaux par des systèmes sources qu'on appelle dans la loi, qui sont des systèmes informatisés. Et la vision, c'est vraiment que ce soit des systèmes informatisés qui transmettent l'information. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, peut-être que ce serait important, c'est que toutes ces dispositions-là qui concernent les services régionaux ne sont pas encore en vigueur. Donc, on va faire probablement un découpage très fin là, de la loi, parce que dans un premier temps, il y a trois régions qui sont visées, qui sont Montréal, Laval, Montérégie. On va commencer avec ces trois régions-là. Et on n'a pas l'intention de commencer avec tous les renseignements qui sont là. Et on n'a pas l'intention non plus que tous les intervenants qui sont énumérés dans la loi puissent intervenir au coordonnateur. On va commencer avec plus, peut-être, je vais vous dire, médecins, pharmaciens, infirmières pour commencer, peut-être. Puis, pour certains renseignements bien précis, on va voir comment ça se passe pendant, je ne sais pas, un an, deux ans, trois ans. Puis là, on pourrait peut-être rajouter d'autres renseignements à un an. Puis après ça, dire, OK, ça fonctionne bien, on déploie au niveau du Québec. Mais c'est sûr que ça va être un déploiement progressif parce que la loi permet que ces mêmes dispositions-là, une fois qu'elles seront en vigueur, pourront prendre effet selon des régions, selon des catégories de renseignements, etc. Ce qui fait qu'on va faire vraiment un déploiement progressif là, par région, par intervenant, par catégorie de renseignements. Alors, la loi prévoit une obligation pour les intervenants qui dispensent des services de santé de transmettre de l'information lorsqu'ils sont en présence de celles qu'on a énumérées tantôt, de les transmettre dans les dossiers santé électronique. Ici, c'est un petit diagramme qui explique comment vont être alimentés les services régionaux de conservation. Je vous disais que quand j'alimente toujours dans la région où je me situe, moi, comme intervenant. Alors, l'intervenant, ce qu'il doit faire, c'est... 1. Aller vérifier auprès du registre des consentements et des révocations qui est tenu par l'RMQ. Vérifier si le consentement de la personne est toujours valide. Est-ce que la donnée est toujours valide? Et l'RMQ va transmettre sous forme électronique une confirmation de la validité du consentement. Une fois que l'intervenant a son petit consentement en main, là, il peut s'adresser à l'agence du territoire où il se situe pour transmettre l'information, mais l'agence, avant d'ouvrir ses portes pour déposer l'information, va s'assurer qu'il s'agit bien d'une intervenant habilité, c'est-à-dire de quelqu'un qui a un certificat qui est valide et qui a le profil d'accès pour transmettre l'information. Si c'est un pharmacien qui existe en pharmacie communautaire, c'est le même processus, sauf que lui envoie l'information à la RMQ. les périodes d'utilisation de conservation, bon, les renseignements sont conservés, bon, toujours au niveau de la région, les services sont rendus, je vous l'ai dit, à l'exception des médicaments, ils vont être conservés. Quand on se conserve, c'est période d'utilisation, c'est la période pendant laquelle les renseignements sont actifs, donc les renseignements peuvent être communiqués à des intervenants qui ont le droit d'en recevoir communication. Cette période d'utilisation-là va être déterminée aussi par un règlement, et lorsque la période, je pense que le suit l'expédient, à l'expiration de la période d'utilisation qui va être déterminée par règlement, va s'ajouter une autre période de conservation, cette fois-ci, de 5 ans, pendant laquelle les renseignements ne peuvent plus être communiqués aux intervenants, mais sont conservés plus des fins de poursuite, par exemple, professionnelles, ou encore du contrôle des actes professionnels, là, ça pourrait servir à ça, mais ils ne peuvent plus être communiqués dans le cadre de la prestation d'un service de santé. Les personnes, tantôt le consentement est révocable. Qu'est-ce qui arrive lorsque la personne révoque son consentement? Les renseignements deviennent inactifs, donc je ne peux plus les communiquer à des intervenants habilités. Quand la personne va s'adresser au registre de consentement, il y aura une indication comme quoi la personne a révoqué son consentement et là, il ne pourra plus se présenter à l'agence pour transmettre ou recevoir de l'information. Je l'ai dit parce que les renseignements ne pourront pas être détruits avant l'expiration d'un délai de 5 ans suivant la période d'utilisation qui est déterminée par règlement. Si une personne manifeste à nouveau son consentement, les renseignements vont redevenir actifs si la période d'utilisation qui était prévue pour leur utilisation n'est pas expirée. Je pense que c'est suffisamment clair. Et lorsque la personne va manifester à nouveau son consentement, on va réactiver les renseignements. Il y aura une mention dans le dossier indiquant que de telle période à telle période, il ne peut plus y avoir de transmission de renseignements parce que la personne a révoqué son consentement. Je le disais tantôt, c'est un outil de communication. Moi, usager, je veux communiquer mes renseignements. Moi, intervenant, je veux recevoir communication de tous ces renseignements-là. C'est une petite communication. Et ça ne dispense pas l'intervenant de poser, comme ce sont aujourd'hui des questions à son patient, pour être sûr qu'il dispose de toute l'information qui est nécessaire pour prendre une décision, pour rendre un diagnostic. J'en ai parlé que la gestion, toute la question de la gestion, l'accès, la protection des renseignements conservés est confiée à un DSP, à un clinicien, non pas à un administrateur de régime de santé. Les profils d'accès sont déterminés par règlement et l'attribution des profils d'accès pour toutes les personnes qui ont des liens d'emploi. Je pense par exemple à un pharmacien dans un établissement, c'est un salarié, une infirmière dans un établissement, c'est un salarié, un archiviste médical, une secrétaire. Ces gens-là devront pour obtenir un certificat et un profil d'accès. C'est un gestionnaire des profils d'accès qui va dire dans mon service, dans quel service, dans quel département, telle personne, pour l'exercice de ses fonctions, pourrait avoir tel profil d'accès, toujours dans le respect des normes. Mais si moi, par exemple, je vous prends l'exemple que je suis infirmière, je fais la vaccination, mon gestionnaire des profils d'accès pourrait dire tu n'as accès qu'à la vaccination et aux allergies, le reste n'a pas accès. Je suis infirmière à l'urgence, si le règlement le permet, je pourrais avoir accès à toute l'information, parce qu'en situation d'urgence, c'est peut-être important, si je travaille à l'urgence, d'avoir accès. Et le règlement nous permet de faire des distinctions selon les titres, les fonctions, les lieux où on exerce. Donc, on pourra faire toutes ces distinctions-là selon le lieu où le gestionnaire des procédures d'accès, lui, pourra toujours donner un profil d'accès plus petit que ce que le règlement prévoit, mais c'est sûr, j'en ai plus que ce que le règlement prévoit. Donc, c'est à lui à vraiment donner le profil qui est nécessaire à la personne pour exercer ses fonctions.
Donc, ça pourrait varier d'une région à l'autre.
Ça pourrait varier parce que moi, je suis infirmière dans le Grand Nord et ça pourrait que j'ai besoin de plus d'accès que l'infirmière qui fait la vaccination, par exemple, là, pour le compte de CLSC. Mais le principe, je veux dire, c'est le même principe qu'on trouve dans la loi sur l'accès, c'est quelle information qui est nécessaire à l'exercice des fonctions. Déjà, il va y avoir un exercice qui va être fait au niveau de la définition des profils d'accès par règlement, ce qu'on pense qui est... Puis là, encore là, il y a des comités adhésaires, des comités cliniciens, la direction des affaires médicales, au ministère qui examine tout ça aussi pour s'assurer que les profils qui sont définis là répondent aux besoins. Mais après ça, ce sera chaque gestionnaire de vérifier est-ce que le profil qui est là, qui permet d'avoir A, B, C, est-ce que je devrais limiter moi à A, parce que cette personne-là, ses fonctions l'amènent à avoir seulement A. Ici, c'est un petit diagramme qui explique comment les profils d'accès sont attribués selon que je suis un intervenant qui a un lien d'emploi ou selon que je suis un professionnel de la santé, travailleur autonome, médecin, pharmacien, optométriste, dentiste, dans des cabinets privés, par exemple, comment se fait l'attribution des profils d'accès par le, par le prestataire de service de certification. Je pense que je ne rentrerai pas dans ce détail-là, là, parce que c'était un peu techno, puis je risque de vous perdre, je ne vais pas vous perdre. Alors, ça touche un petit peu aussi à cette diapositive-là qui parle d'identification, d'authentification rigoureuse des personnes. La loi a prévu, non pas dans la section sur les services régionaux de conservation, mais dans une autre section qui touche plus aux actifs informationnels du réseau, une disposition qui dit que lorsqu'un certificat est requis pour accéder aux actifs du réseau ou de l'ARENQ, voici quelles sont les conditions, les critères auxquels le fameux certificat doit répondre. Il y a une disposition qui dit que le ministre pourrait, lui, décider dans quel cas un certificat est maintenant obligatoire. Donc, le ministre a une espèce de pouvoir pour dire maintenant, lorsqu'on échange un dossier local, par exemple, entre établissements, plutôt que d'avoir un code d'usager, mot de passe, on veut transférer par voie électronique, dorénavant, ça prendra un certificat pour s'assurer que l'autre intervenant au bout a le droit de recevoir et elle est bien la personne qu'elle prétend être. Donc, le ministre pourrait aller jusque-là. Là, on va commencer avec les services régionaux. Les choses certaines, pour les services régionaux, le certificat est obligatoire. Donc, on est en train de mettre en place, puis j'avoue que c'est assez complexe parce qu'il n'y a pas beaucoup, je dirais, d'expérience. Il y en a au Québec avec le registre des droits personnels mobiliers, le registre foncier. La SAC aussi utilise aussi des systèmes d'infrastructure accès public qu'on appelle, où on met en place un système qui va permettre, comme j'ai tantôt, un accès hautement sécurisé à ces renseignements de santé-là. Je pense que c'est important qu'on ait un niveau de sécurité élevé et qui permet vraiment, parce que la certification, c'est un peu comme un certificat de naissance. Un certificat de naissance qu'on connaît maintenant sur papier, le certificat, c'est un certificat électronique qui vient certifier, c'est un certificat électronique qui vient confirmer votre identité et qui va aussi confirmer dans ce cas-ci pour les services régionaux votre profil d'accès. Vous avez tel profil d'accès et vous êtes bien diadvoi, médecin, c'est ce que le certificat va confirmer. Et c'est associé à ce qu'on appelle un système de clés asymétriques qui va permettre effectivement aux intervenants avec leurs clés plus privées de signer les renseignements qu'ils transmettent. Et ces systèmes de clés asymétriques qu'on appelle, là, ça permet aussi d'assurer l'intégrité de l'information. Quand je pose ma clé privée sur l'information, on va toujours savoir s'il y a eu intrusion, si l'information a été modifiée. Parce que quand je pose ma clé privée, il y a une clé publique qui est associée à ça, son unique en soi, et la personne qui est au bout, qui prend la clé publique pour venir déchiffrer, si on veut le message, peut toujours se rendre compte s'il y a eu une modification du message. Donc, ça peut assurer aussi l'intégrité de l'information. Alors, tous les intervenants qui vont transmettre de l'information, qui vont en recevoir, devront avoir été certifiés, avoir obtenu un certificat et avoir un profil d'accès. Même chose, les personnes qui vont être habilitées à recueillir le consentement, ça va leur prendre des certificats. Les personnes qui vont gérer tous les registres de la RAMQ, registre de consentement, on va voir tantôt, il y a un localisateur, là, je vais vous expliquer ça. Ces personnes-là aussi devront avoir des résultats. Donc, tous les intervenants qui agissent autour des services de conservation devront avoir des certificats qui confirment leur identité et leur profil d'accès. Les intervenants, qui sont-ils? C'est ça, médecin, on avait médecin, pharmacien, infirmière. En commission parlementaire, les archivistes médicales sont mis en valoir et jouent un rôle très important qu'il faudrait qu'elles apparaissent dans la liste d'intervenabilité parce qu'au niveau local, c'est vraiment elles qui sont, si on veut, les gardiennes du dossier, la confidentialité, la protection des renseignements personnels contenus dans les dossiers locaux. Et elles auront sûrement un rôle à jouer, c'est un nouveau rôle, parce qu'il n'existe pas actuellement au sein des agences comme telles pour tout ce qui touche la gestion des dossiers santé électronique. Même chose, on n'avait pas les dentistes, on n'avait pas les optométristes, ni les podiatres, ni les sages-femmes, mais on s'est rendu compte que ces personnes-là étaient aussi autorisées à faire des prescriptions. Donc, c'est très important que ces mêmes personnes-là aient accès aux médicaments et aux allergies. Si elles avaient à prescrire, bon, elles auraient l'information pertinente. Donc, leurs droits risquent d'être très limités pour ces intervenants-là. Et comme je vous dis tantôt, dans une première phase d'implantation du projet, je ne pense pas que ces personnes-là vont être visées. On va vraiment commencer avec médecins, pharmaciens, infirmières, les candidats à l'exercice, bien sûr, les résidents en médecine, ces gens-là vont sûrement avoir des habilitations, les archivistes médicales aussi. Je ne crois pas que les techniciens ambulanciers aient des droits dans un court délai pour le moment. Et toutes les personnes dans l'emploi de l'un de ces intervenants-là par exemple, les personnes à l'accueil dans un établissement, les personnes au niveau du secrétariat de cabinet privé pourraient avoir aussi un certain profil d'accès. Les personnes qui rendent des services professionnels dans des laboratoires, pour tout ce qui touche la transmission des renseignements concernant les résultats de laboratoire, sont aussi visées. Et comme je disais tantôt, toutes les personnes qui sont en lien avec les différents systèmes devront aussi détenir des certificats et des profils d'accès pour pouvoir agir. Quand on parle d'authentifier l'intervenant, c'est aussi c'est bien technique. Quand la personne présente son certificat pour accéder à un actif informationnel, donc pour accéder à l'agence, l'agence devra d'abord vérifier la validité du certificat auprès de la RAMQ, parce que la RAMQ va être le prestataire de services de répertoire qu'on appelle. Et il y a trois questions, si on veut, qui sont posées. Est-ce que le certificat est suspendu ou annulé? Parce que la RAMQ, elle va détenir la liste des numéros de certificats qui ont été annulés ou suspendus. Et le prestataire de services de certification, lui, a la liste des renseignements des personnes à qui il délivre des certificats. On a fait le système de façon telle que le prestataire de services de certification délivre des certificats, il sait à qui les délivre, il ne sait pas quelle utilisation est faite des certificats dans le réseau. Et le prestataire de services de répertoire, qui est la RAMQ, va obtenir juste la liste des certificats annulés. Donc, la RAMQ va savoir quelle utilisation est faite des certificats, mais ça ne sera pas par qui. Donc, on essaie de viser un petit peu le système, le plan un petit peu étanche. Et on dit que le certificat, bien sûr, doit être délivré par un organisme qui était désigné par le Conseil du Trésor pour offrir les services de certification dans le domaine de la santé, parce qu'on en fait vraiment un domaine de confiance, et que le numéro de politique du certificat correspond à celui qui est autorisé à rendre les services dans le domaine de la santé, parce qu'on aurait pu penser que le ministère de la Justice, qui offre actuellement des services de certification, entre autres dans le cadre du registre foncier, on aurait pu peut-être désigner le ministère de la Justice, mais son numéro de politique de certification aurait été différent pour le secteur de la santé qu'il l'aurait été pour le registre foncier. Donc, s'assurer que le certificat que j'ai me permet d'agir vraiment dans le domaine de la santé. Donc, c'est un petit peu comment ça fonctionne, c'est un petit peu technique. Je pense que ce qui est important ici, c'est vraiment les règles d'utilisation et de communication des renseignements qui sont conservés. C'est un régime particulier. On ne retrouve pas ça au niveau des dossiers locaux, que ce soit dans les cabinets privés ou dans les établissements. Bien sûr, la règle, c'est la confidentialité des renseignements. Les renseignements ne peuvent pas être utilisés par les agences qui vont les conserver à d'autres fins que celles de les communiquer à des intervenants habilités. On a vu ce qu'ils les intervenants, on va voir quels sont leurs profils d'accès qui leur sont attribués. Ils ne peuvent les communiquer qu'à ces personnes-là. Oui. Moi, là, c'est ça, j'en ai vu mon heure. Je vais prendre une petite pause pour gérer le tout.
Extrêmement technique. On est à peu près à la moitié.
À peu près, oui.
Alors,
moi, je pense que d'ici peut-être dans 45 minutes, c'est parce que je vais aller assez rapidement sur les règles d'identification et d'authentification, présenter peut-être un petit peu le modèle. Puis je pense qu'après ça, on pourrait faire une petite discussion là, ensemble. Ça pourrait être intéressant de connaître votre point de vue puis d'échanger avec vous.
Alors, je propose qu'on fasse une pause d'une dizaine de minutes. Il y a des rafraîchissements ou des cafés là, à l'arrière. Je vous invite à vous servir. Nous reprendrons dans une dizaine, une quinzaine de minutes. Ça sera bien aussi de ménager. Ça.
Parce que j'ai
compris la chose. Bon, c'est bon. Non, il y a des choses, mais il y a des choses, mais moi,
je présente l'ensemble des dispositions que j'ai vues dans le domaine pour ce qui est de l'eau. C'est pas intéressant, mais c'est beaucoup matière de pleurer. En y allant juste avec un sujet comme les services de consommation,
c'est ça, c'est un modèle intéressant. Ça permet de. C'est un modèle assez innovateur.
Parce que je trouve que quand la loi a été adoptée, on sent que ce projet de la participation, le CDR va devenir le modèle, même si le projet était pas pour ça que je suis acheté, mais c'est beaucoup à ça pour voir
Mais moi, ce que je comprends, c'est que je suis des tellement portés sur la discrimination qu'ils vont les assassiner, tout ça, c'est le problème. Je comprends. Parce qu'en fait, au long de ça, on a vu bien sûr.
J'imagine que là, sans rien qu'on compare, de façon sur cette collectivité, ils vont avoir une campagne de formation sur ce niveau régional dans la région-là.
Thank you. Ben oui, Oui, mais ça nous permet de dire ça, parce que si vous voulez au de la porte, mais là, je suis pas contre au moyen de la porte, la porte est déjà plus
facile. Ben là, c'est ça, je vous dis, mais là, je vous dis,
L'intention qu'on a, c'est que le formulaire de consentement, c'est de dire, ben, c'est pour ça que je l'ai dit. Puis le deuxième consentement, c'est de consacrer à son recueil de renseignements historiques. Puis les gens pourraient lui donner.
On va voir.
On va voir.
Non, c'est pas que je vais aller à l'instant. Même que on coupe un tissu, il y a une conversation parallèle. Alors, mesdames, messieurs, je vous invite à reprendre place. Nous allons continuer nos travaux. Nous allons continuer tout de suite. Je vous invite à reprendre place. Alors, je propose que Maître Bois continue et complète sa présentation et espérons qu'on aura un peu de temps justement pour échanger les questions. Mais évidemment, comme ça a été fait au début, si vous êtes d'accord, Madame Bois, ces personnes peuvent intervenir pour poser des questions là, sur des points spécifiques. Alors, je vous remets la parole.
J'espère que ma présentation vous apporte un petit peu plus de lumière que de confusion. Mais ça vous permet peut-être, lorsque vous allez vous retrouver en présence de cette disposition-là, peut-être d'allumer des petites lumières puis de développer des petits réflexes, ça ne sera déjà pas si mal. Alors, toujours au niveau des règles du système de communication, les renseignements qui sont conservés dans ce service-là ne peuvent pas être communiqués à d'autres personnes qui sont des intervenants habilités. On a vu c'était qui, selon des profils d'accès, même si la personne consentait à ce que ces renseignements soient communiqués à des tiers. Donc, les seules personnes qui peuvent avoir ça, c'est des intervenants habilités. Deux exceptions, l'agence peut toujours communiquer avec la RAMQ les données d'identification pour pouvoir mettre à jour ces données-là. Deuxième exception, j'en ai parlé tantôt, c'est les renseignements qui concernent les médicaments délivrés en pharmacie communautaire qui pourront être communiqués sous forme non administrative à la RAMQ, au conseil du médicament, pour l'exercice des fonctions du conseil du médicament. Les intervenants qui vont recevoir communication de ces renseignements-là ne peuvent pas, eux non plus, les communiquer à des tiers, même si la personne consentait à la communication de leur renseignement. Je vais continuer, puis je vais vous expliquer tout ça. En plus, la loi les oblige à prendre des mesures vont permettre d'assurer la sécurité et la confidentialité des renseignements. Ce qu'il faut comprendre, lorsque moi j'ai un dossier local comme médecin, je suis dans mon établissement, à supposer que je fasse un imprimé de ce qui provient des services régionaux de conservation, ce qui est prévu, c'est que lorsque la personne va imprimer, il va avoir une indication assez grosse, en gros caractère, en rouge, je ne sais pas trop, pour indiquer que ça provient des services régionaux de conservation. L'intervenant va le mettre dans son dossier. Comme on sait que le dossier local, avec le consentement de la personne, il peut être communiqué, ou encore, dans certains cas, que la loi prévoit des exceptions, on pourrait être communiqué sans le consentement de la personne, ça va obliger les archivistes médicales vraiment à épurer le dossier pour s'assurer que ce qui provient des services régionaux n'est pas communiqué à des tiers. Donc, dans les cliniques privées, on devra prendre les mêmes dispositions que lorsqu'on communique le dossier d'un patient, on s'assure que ce qui provient des services régionaux de conservation est bien retiré du dossier pour ne pas le communiquer à des tiers. Petite exception à ce que je viens de vous dire, si l'intervenant inscrit dans son dossier, parce qu'il a vu dans les données d'urgence que la personne avait un implant cardiaque qui doit lui faire subir une chirurgie, c'est un élément important qu'il doit connaître, il le consigne de façon spécifique dans son dossier. À ce moment-là, le renseignement va faire partie du dossier local et les règles de confidentialité, d'accès, de communication qui s'appliquent au dossier local vont s'appliquer à ce renseignement-là. Mais prenons pour acquis que l'extrait qui provient des services régionaux, il y aura une indication que ça provient de là, que ça ne peut pas le communiquer à des tiers, même si la personne est consentée. La loi prévoit des interdictions formelles à certaines personnes, les mots sont importants, là, de demander, d'exiger ou de recevoir de quiconque un extrait ou une copie des renseignements conservés, même si la personne est consentée. Entre autres, des intervenants qui pratiquent dans un domaine où ils ne rendent pas une personne des services de santé. Prenons un médecin, par exemple, qui exerce au niveau de la santé publique. Ce médecin-là n'a pas accès aux renseignements qui sont là. Puis on a vu dans les profils d'accès, dans les intervenants habilités, que tout ce qui touche santé publique, ils n'ont pas accès aux services régionaux de conservation. Même chose, les médecins qui exerceraient des fonctions qui sont reliées au contrôle ou à l'expertise. Je suis médecin, par exemple, la CSST, je suis médecin pour la SAAC, je n'ai pas accès à ces renseignements-là, je n'ai pas le droit, ils n'auront pas de profil d'accès. Mais ça pourrait, moi, comme médecin de ma clinique privée, j'ai des cas CSST, j'ai des cas SAAC, et que sur les 30 personnes que j'ai vues aujourd'hui, il y a deux cas de CSST. Normalement, là, on fait rire des gens, des fois, il y en a qui rient pas, mais ces personnes-là, dans le cadre de l'exercice de cette fonction-là, devant ce patient-là, ils n'ont pas le droit d'accéder aux services régionaux. Qui ont tout ce qu'il faut pour y accéder. Ils ont leur clé, ils ont leur certificat, leur profil d'accès qui leur permet d'aller voir le dossier de la personne. Mais, sur le plan déontologique, si on veut, ils n'ont pas le droit d'y accéder. Quand on en parle aux gens qui ne sont pas médecins, tout le monde a un grand sourire dans le sud en disant, ouais, la déontologie, si le médecin veut voir, il va aller voir. Puis quand on parle des médecins, comment ça que les gens ne font pas confiance? C'est toujours la même affaire. C'est comme... Donc, ces gens-là n'ont pas le droit d'avoir accès à ce dossier-là, mais je vais vous expliquer comment on peut s'assurer de l'application de ça tantôt. Et puis la question, les assureurs, les employeurs n'ont pas accès à ça. C'est quand je vous dis les mots sont importants ici, parce qu'on parle vraiment, on ne peut pas demander, je ne peux pas exiger ou je ne peux pas recevoir. On sait dans la loi sur l'assurance maladie, on a la carte d'assurance maladie où c'est prévu que nul ne peut exiger la production de la carte d'assurance maladie si ce n'est pour obtenir des services, une prestation sur les santé qui est payée par le gouvernement, quelque chose comme ça. C'est marqué « Nul ne peut exiger la production de la carte d'assurance maladie ». Si moi, je m'inscris au loisir de la ville de Montréal et qu'on exige ma carte d'assurance maladie pour m'inscrire, ils sont en infraction. Mais si on me demande la carte d'assurance maladie, que je veux bien la produire parce qu'ils me disent « Produis-moi une carte avec une photo, n'importe quelle, carte d'assurance maladie, carte de permis de conduire ou une autre carte, et que moi je la produis, ils ne sont pas en infraction, parce que la loi dit « Nul ne peut exiger la production ». La carte. Si c'est demander, exiger, recevoir. Je peux le demander, je peux l'exiger. Et si je reçois, j'ai dans mon dossier, moi, comme assureur, ce type de renseignement-là, je suis aussi en infraction. Donc, assureur, employeur, interdiction formelle à quiconque d'avoir accès de quelque manière que ce soit à ces renseignements pour la conclusion de tout contrat exigeant l'évaluation de l'état de santé d'une personne, qu'on passe au contrat de personne, contrat d'embauche ou en cours d'emploi. Une interdiction formelle à ces personnes-là d'avoir accès à ces renseignements. Il y a des gens qui disaient... Pardon? Ah, je...
Non, je pensais quand on a vu certains cas où les banques, pour accorder une hypothèque sur
une
maison, peuvent aussi avoir accès à l'état de santé général d'une personne. Est-ce que dans votre
énumération,
est-ce qu'il y en a
un? La loi ne dit pas contrat d'assurance de personne, c'est moi qui ai ajouté ça. Là, c'est tout contrat qui exige l'évaluation de santé d'une personne pour n'importe quel fait. Parce que les gens disent, pourquoi êtes-vous paternaliste, que vous ne permettez pas aux personnes de consentir? C'est exactement ce que vous dites. Hein? Je fais une demande d'un prêt hypothécaire, on me demande l'évaluation de mon état de santé. Oui. Si je n'avais mon hypothèque, m'a consenti. Hein? Si je veux un nouvel emploi, puis que mon employeur me dit, tu réponds bien les critères, mais on s'attend à une évaluation de ton état de santé pour être sûr qu'une personne bien en forme, soit bien performante. On peut penser, on voudrait avoir accès à ces renseignements-là. Ils n'ont pas le droit d'y accéder. Ils ne peuvent pas me demander, ils ne peuvent pas l'exiger, ils ne peuvent pas le retrouver dans leur dossier, dans mon dossier d'employé, ils ne peuvent pas retrouver ça. Donc, c'est vraiment une interdiction formelle. Les seules personnes qui peuvent l'avoir, c'est les intervenants habilités. Et ces personnes-là ne peuvent pas non plus les communiquer à d'autres personnes. Et ils doivent prendre des mesures de sécurité, justement, pour s'assurer la confidentialité de ces renseignements-là. Donc, ça, c'est le principe. Comment on peut s'assurer du respect de tout ça? Bon, il y a des droits qui sont reconnus aux personnes, à savoir, bon, on évite en tout le consentement limité dans le temps, révocable en tout temps. Ils ont des droits d'accès aux documents qui sont conservés, des droits d'actification. Grosso modo, les mêmes droits d'actification que ceux qui s'appliquent au dossier local. Droit d'accès, si moi, en tout cas, j'étais un patient qui rencontre un médecin dans le cadre de, je sais pas, d'un accident d'automobile et que je rencontrais ce médecin-là, je pense que le lendemain, j'aurais fait une demande d'accès pour m'assurer qu'il n'y a pas eu accès à cette information-là. Parce que comme j'ai un droit d'accès et que la journalisation de tout ce qui se fait dans ce dossier-là, une journalisation de qui a transmis, qui a reçu l'information, à quelle date, je peux toujours moi m'assurer que le médecin qui m'a vu n'a jamais eu accès à mon dossier. Et s'il a eu accès, j'ai une série de recours que la loi prévoit qui va me permettre de m'assurer que ce genre de médecin-là n'ira pas chercher mes données alors qu'il n'avait pas le droit de le faire. Et peut-être que là aussi, c'est illusoire, parce qu'on a quand même mis, on va voir, là, des pénalités assez importantes là, pour tout le manquement à la loi. On a vu que les intervenants ont l'obligation de transmettre. S'ils ne transmettent pas, ils ont des pénalités de 6 000 à 30 000 par personne. Si on est des personnes physiques, 12 000 à 60 000 pour les personnes morales. Même chose pour ce qui brille de confidentialité, c'est ces amendes-là. Est-ce qu'on peut penser qu'un assureur qui contreviendrait à ces règles-là, pour lui, 30 000, c'est rien, ou c'est 60 000, c'est rien, je ne sais pas, c'est pour un jour d'évaluer. On a mis quand même des montants d'infractions qui dépassent ce qu'on leur retrouve normalement en matière pénale, des infractions dont les montants sont assez importants. Donc, c'est une façon qu'on aura de contrôler d'une certaine façon les accès qui sont faits par des personnes qui autrement ne seraient pas autorisées.
Est-ce que la loi n'est pas muette sur la conservation des journalisations?
Non, la loi n'est pas muette sur, elle dit, entre autres, une obligation pour les agences de journaliser, de vérifier les journaux, parce que souvent, il y a une obligation de journaliser, mais on ne vérifie pas. Ils doivent, en plus, faire annuellement des rapports au ministre sur la conformité.
Ils doivent conserver un certain nombre de temps, parce que le problème qui risque de se poser, c'est que la personne qui serait victime d'un accès inautorisé risque fort de s'en rendre compte bien plus tard.
Non, mais la loi ne se prononce pas là-dessus, mais ce qui est prévu, c'est effectivement que les journaux soient conservés longtemps. Parce que quand je vous disais tantôt,
il n'y a pas de
disposition, mais ça va un petit peu avec, je dirais, comme les règles d'utilisation et de conservation. Si dès le matin, il y a une poursuite médicale, il faut être capable de dire ce médecin-là a eu accès à quoi et quand. Parce que la poursuite pourrait porter sur les renseignements qu'il prétend ne pas avoir eu ou avoir eu. Et c'est ce renseignement-là qui s'est fondé pour avoir un diagnostic, par exemple. Donc, c'est important qu'on ait une trace sous terre de ce à quoi...
Ça demande l'espace informatique énorme pour faire des journalisations dans un système comme celui-là.
Non, mais c'est prévu. La loi ne dispose pas de ça de façon spécifique, mais c'est prévu que ça va être conservé justement à cause de la fameuse période de conservation de 5 ans qui s'ajoute là, à la période d'utilisation pour permettre l'exercice des droits.
Ça ne pourra pas être inférieur à 5 ans.
Ça ne pourra pas être inférieur à la période d'utilisation à laquelle s'ajoute un autre 5 ans. Les plaintes, bon, on a vu tantôt que tout ça, cette gestion des renseignements-là était sur la responsabilité d'un directeur de service professionnel dans chacune des agences de santé, donc possibilité de faire une plainte au niveau du DSP. Il y a le ministre aussi qui a un pouvoir d'enquête et de surveillance qui peut aller jusqu'à retirer l'autorisation qu'il aura donnée à une agence ou un établissement d'offrir des services. Ça pourrait aller aussi jusqu'à la révocation du profil d'accès des intervenants. Quand je dis ça, il y a des médecins qui ont l'air bien contents parce que ça ne fait pas leur affaire d'avoir l'obligation de transmettre les informations. Moi, je leur dis, si on retire votre profil d'accès, parce qu'on aura probablement retiré votre voie de pratique aussi. Mm-hmm. Ça, c'est comme... ne vous oubliez pas. Il y a la Commission d'accès à l'information du Québec aussi qui a vraiment des pouvoirs importants pour s'assurer du bon fonctionnement du système, du respect des règles qui sont prévues à la loi. Et on a aussi le commissaire régional aux plaintes et à la qualité qui, lui, est plus un commissaire, parce que le nom le dit, régional, qui s'occupe, lui, normalement, des dossiers locaux, qui touche les plaintes au niveau du dossier local. Et lui pourrait, par exemple, intervenir non pas au niveau de l'accès, de la gestion, comment sont gérés les renseignements ou la protection, mais intervenir plus parce que moi, j'avais fait une demande d'accès à l'agence pour obtenir mes services, mes renseignements qui sont conservés. On serait très, très impoli avec moi. On me dit dans deux jours, je vais en les donner. Puis finalement, ça fait trois semaines que j'appelle, j'ai jamais le service. Je pourrais me plaindre auprès du commissaire régional aux plaintes. Mais disons que c'est pour l'intervenant le plus important dans tout le processus, c'est vraiment le DSP et le ministre qui a ses pouvoirs d'enquête et de surveillance, et bien sûr la commission d'accès. Puis moi, je dis aux gens qui développent ce système-là actuellement, il n'y a pas juste le ministre qui... Le ministre, lui, va agir sur plainte. La commission d'accès, on sait qu'on va avoir un pouvoir d'intervention pour même exiger qu'on lui démontre qu'on respecte la loi. Dans la façon dont on développe les systèmes, il y a le travail aussi du vérificateur général qui va se mettre le nez là-dedans, parce que tout le long des commissions parlementaires, le vérificateur général était là aussi. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui surveillent la mise en place de tout ça, pour s'assurer que les garanties juridiques sont mises en place, les garanties technologiques sont bien présentes dans les systèmes. Responsabilité et imputabilité, c'est juste pour vous dire, autant les agences que pour l'ensemble des renseignements que la RAMQ pour le médicament, bien sûr, sont imputables des actes qu'ils posent. Il y a une série de dispositions dans la loi qui les rendent responsables et imputables de la sécurité, notamment. Là. Donc, c'est de ça un peu que l'on traite. Ce que je voulais vous dire tantôt, quand la RAMQ reçoit les médicaments des pharmacies communautaires, elle les reçoit des pharmaciens, mais jamais qu'elle communique les renseignements concernant les médicaments. C'est toujours lorsque l'intervenant fait une demande à l'agence de recevoir certains renseignements que là, l'agence fait une demande à la RAMQ l'amène à l'agence qui, elle, l'envoie à l'intervenant. Il n'y a pas de lien direct entre les intervenants et la RAMQ. La RAMQ ramasse les pharmaciens si sa job est finie. Après ça, c'est l'agence qui va chercher les renseignements à la RAMQ au besoin lorsqu'un intervenant fait une demande. Ce qui est important de retenir au niveau des agences, contrairement à ce qui peut se passer par rapport aux autres fonctions que les agences assument ou les établissements, c'est qu'ils ne peuvent pas impartir leurs fonctions. Donc, ils ne peuvent pas donner de sous-contrôle privé pour que le privé, comme CGI, DMR ou peu importe, assume ces responsabilités-là. Ils doivent elles-mêmes assumer les responsabilités qui leur sont confiées. Et le ministre va désigner les agences, les établissements qui sont en mesure d'assumer ces responsabilités-là. La loi dit, parce que l'intention, c'est vraiment qu'il y ait autant de services régionaux que de territoires d'agences, mais il se peut que dans certaines régions, ces agences-là ne sont pas suffisamment, par manque de ressources, disons, techniques, de ressources humaines, en mesure de rendre les services. Le ministre, de façon exceptionnelle, peut désigner une agence à offrir les services sur plus d'un territoire. Mais la volonté, ce n'est pas d'arriver à faire deux agences au Québec qui auraient la responsabilité, parce qu'on doit faire un petit peu indirectement ce qu'on ne voulait pas faire directement, c'est de ne pas avoir de banque centralisée. Là. Donc, c'est vraiment des renseignements qui sont conservés sur une base régionale, mais là où c'est impossible pour certaines agences ou établissements d'offrir le service, le ministre pourrait désigner une agence à offrir les services sur plus de territoire. C'est sûr que cette autorisation-là, je vous disais, le ministre, lui, s'il est sur plainte, bon, il agit, il pourrait retirer l'autorisation à l'agence ou à l'établissement qui a été désigné pour aller jusque-là, ou encore recommander d'améliorer certaines façons de faire, parce que je vous disais que les agences devront, sur une base annuelle, quand même assez lourde, faire des rapports au ministre sur la conformité là, de leur système, des façons de faire avec la loi, en fait. Bon, obligation de journaliser toute accès aux renseignements conservés, de surveiller les journaux, de mettre en place des mécanismes pour s'assurer du respect des obligations qui vont être imposées et par la loi et par l'autorisation que le ministre va leur accorder. On travaille aussi sur des projets là, sur les contenus d'autorisation qui vont être faits aux agences pour offrir les services. Je vous en ai parlé, le rapport d'évaluation de conformité, une espèce de rapport d'audit dans le fond que les agences devront transmettre annuellement au ministre. Je vous disais, impossibilité d'impartir leurs fonctions à des tiers. Au niveau des responsabilités de la RAMQ, le service régime de conservation va être appelé à rendre différents services, dont un service de mise à jour des données d'identification, vu que c'est les données qu'on retrouvait dans les services de conservation. Elle va attribuer un numéro d'identification unique à toutes les personnes qui ont un statut de personne assurée au sens de la loi de l'assurance maladie. Et aussi, la loi prévoit qu'elle pourra le faire pour les autres usagers, mais ce que la loi prévoit actuellement, c'est qu'à l'égard de ces personnes-là, elle ne peut pas conserver les données personnelles des personnes qui ne sont pas des personnes assurées. Puis ça pose un problème parce que quand on parle de numéro d'identification unique, pour les personnes assurées, c'est sûr que le numéro va être unique, contrairement aux personnes non assurées, si la RAMQ ne conserve pas les données, que le nom de la personne non assurée se promène d'un établissement ou d'un intervenant à l'autre, quand l'intervenant va demander un NU pour cette personne-là, comme la RAMQ n'a pas conservé de données personnelles à l'égard de cette personne-là, elle ne pourra pas attribuer le même numéro. Ça peut poser un problème, surtout au niveau des banques qu'on veut constituer au niveau de l'imagerie médicale, ça risque de poser un certain problème, là, ce fameux numéro d'identification unique-là.
Mais le numéro...
Parce que nous, l'assurance maladie, d'abord, sa fonction était vraiment de prouver votre admissibilité au régime d'assurance maladie, et le numéro d'assurance maladie, dans le temps, peut changer. Si moi, j'appelle Diane Bois, puis je décide de m'appeler Sylvie Bois demain, mon numéro d'assurance maladie va changer. Ça va être Bois SY, par exemple. Si je change de sexe, c'est ça que ça n'arrive pas tous les jours, là, mais il y a quand même un pourcentage de la population qui... On change de sexe, c'est sûr que la carte d'assurance, le niveau de carte d'assurance maladie va changer. Donc, c'est des situations où le niveau d'assurance maladie, on peut dire, ce n'est pas un numéro unique en soi. Dans le temps, il pourrait éventuellement changer. Parce que le numéro d'identification unique, depuis le 1er février, je pense, 2006, la RAMQ a attribué à toutes les personnes assurées au Québec un numéro d'identification unique. Et actuellement, il y a eu des protocoles d'entente entre la RAMQ et certains établissements pour introduire le numéro d'identification unique dans tous les index locaux de tous les établissements. On va faire la même chose avec tous les intervenants qui sont appelés à intervenir dans le cadre des services régionaux de conservation, parce que le NU devient la clé pour identifier quelqu'un et transmettre l'information par rapport à cette personne-là ou en recevoir communication. Mais là, on travaille aussi, avec des modifications législatives pour mieux encadrer l'utilisation du NUI. On a mis des règles à l'effet que le NUI ne peut pas apparaître sur la carte d'assurance maladie à moins d'en assurer la confidentialité. Puis là, c'est le dada de dire peut-être qu'un jour, la carte d'assurance maladie va contenir un microprocesseur et que si le numéro est dedans, on va assurer sa confidentialité. On n'a pas pensé aux cartes d'hôpital, les fameuses cartes d'hôpital, par exemple, ou tous les documents qui peuvent circuler, puis qu'on va venir encadrer ça pour s'assurer que le NUI n'apparaisse pas sur la carte d'hôpital parce que... Là, ça m'enlève pour avoir des croisements de banques de données parce que je vais arriver quelque part, on va me demander mon NUI, ça va devenir plus intéressant encore qu'un numéro d'assurance sociale, un numéro d'assurance maladie. Donc, on veut vraiment s'assurer qu'il ne serve ce numéro-là que dans le cadre des prestations de services de santé ou de l'échange d'informations de santé et que cette information-là ne soit pas visible sur... qu'on travaille aussi sur des modifications pour les resserrer l'utilisation qui en est faite. J'en ai parlé tantôt, tenu du fichier des consentements de révocation, toutes les personnes qui vont consentir à avoir un dossier santé électronique, il y aura une inscription qui va être faite par des personnes qui vont être autorisées à le recueillir, ce consentement-là, au niveau du fichier des consentements. Il est prévu que lorsqu'une personne perd son admissibilité au régime d'assurance maladie du Québec, la RAMQ, bon, lorsqu'elle met un code dans ses systèmes pour dire que telle personne n'est plus une personne assurée, elle va révoquer de plein droit le consentement de la personne, parce que la personne n'a plus le statut de personne assurée. Ce que je ne vous ai pas parlé, c'est le moment, c'est le fameux service de localisation des renseignements conservés. Je vous disais, les renseignements sont conservés sur le territoire de l'agence où les services ont été rendus, mais si moi je me promène beaucoup puis que j'ai des services qui me sont rendus dans plusieurs régions, il faut trouver un moyen pour l'intervenant de savoir où sont les données de Diane Bois. Alors, la RAMQ va constituer ce qu'on appelle un service de localisation, un localisateur qui va venir localiser dans quelle région sont conservés les renseignements de Diane Bois. On ne sait pas quels renseignements sont conservés, mais on sait qu'il y a des renseignements de la région 1, 3 et 15. Donc, une agence, la première fois qu'elle reçoit des renseignements me concernant, elle avise la RAMQ au service de localisation pour dire dorénavant, j'ai de l'information sur Diane Bois, c'est tout. Alors, l'intervenant, lorsqu'il veut recevoir communication de mes renseignements, qui va avoir l'ensemble de mon dossier, communique avec la RAMQ, mais toujours avec sa petite confirmation de validité du consentement, parce qu'il n'y a plus de consentement, il n'y a plus moyen d'aller au localisateur. Donc, confirmation de validité, ils vont au localisateur pour savoir où sont les informations de Diane Bois avec son certificat, parce que la RAMQ ne laissera pas rentrer, ce n'est pas une intervenant habilité. Et après, il pourra aller demander à chacune des agences de lui transmettre l'information, toujours en présentant son certificat qui va lui démontrer qu'elle doit recevoir l'information qu'il demande. J'en ai parlé, c'est la question de la cueillette de conservation des renseignements concernant les médicaments délivrés à la pharmacie communautaire, non pas en établissement. L'établissement s'en va dans les bases régionales. Médicaments à la pharmacie communautaire à la RAMQ, donc ils sont autorisés maintenant à conserver les données qui proviennent du secteur privé, parce qu'on sait que la RAMQ pouvait ramasser seulement les données qui concernaient les personnes assurées par la RAMQ. Elle ne pouvait pas être autorisée à détenir des informations des personnes qui n'étaient pas sa clientèle à qui elle ne rendait pas des services. Maintenant, pour les fins des services de conservation, elle pourra recueillir ces renseignements-là et elle ne peut pas utiliser ces renseignements-là à d'autres fins non plus que de les communiquer à une agence à qui un intervenant a demandé de recevoir communication de ces renseignements-là. L'exception, c'est toujours le fameux conseil du médicament là, sous forme non nominative. Donc, c'est la question de mise à jour des données. Ça, j'ai pour vous expliquer la définition du NIU. J'en ai parlé pas mal pour vous dire, bon, seulement les personnes assurées, on est venu encadrer ça, on veut mieux encadrer ça. La tenue du fichier, je vous en ai parlé. Comment le recueil et vote, je vous en ai parlé. Le service de localisation, c'est connaître les endroits où sont conservées les informations. Je vais pas mal vous parler de ça. Ah ben, c'est une chance. Ma table des affaires annonçait tout le contenu de mes diapositives. Non, parce que j'ai fait deux présentations, une qui était pas mal plus exhaustive. Après ça, on s'est entendu avec notre fidèle pour présenter seulement les services de conservation. Qu'on enlevait le reste parce qu'on voulait vraiment miser sur les services de conservation. Mais je dois peut-être vous parler un petit peu du système d'identification, d'authentification là, des intervenants, où vraiment là, on a un modèle fonctionnel qui fait en sorte que c'est le conseil du Trésor qui va désigner le prestataire des services de certification, c'est celui qui va émettre les certificats. Vous avez les agents de vérification d'identité qui vont être désignés par le ministre, qui vont avoir une acte de nomination qui va prévoir les pouvoirs de ces personnes-là, les devoirs des AVI. Les AVI, c'est les agents de vérification d'identité qui devront vérifier l'identité des intervenants avant qu'on leur émette un certificat qui certifie que Diane Bois est bien médecin. Donc, les avis qui vont être désignés par le ministre. Le souhait, pas le souhait, mais c'est l'intention, c'est que les avis soient vraiment à proximité des intervenants dans leur milieu de travail pour faciliter justement l'identification de ces personnes-là. Je vous ai parlé des gestionnaires des profils d'accès qui, pour ceux qui ont des liens d'emploi, vont décider qui dans son service devrait avoir un certificat, parce que ce certificat-là qui donne un accès à des renseignements sont nécessaires à l'exercice des fonctions. Et vous avez le prestataire de service de répertoire, qui est le RMQ, qui elle agit comme pour valider un certificat. Quand on présente un certificat à quelqu'un, cette personne-là, en vertu, entre autres, de la loi santé et services sociaux, mais aussi du cadre juridique des technologies de l'information, on a l'obligation d'aller vérifier la validité du certificat pour s'assurer que le certificat est valide, qu'on puisse fonder sur ce certificat-là pour agir. Donc, ça touche un petit peu l'identification, l'authentification, puis... Bon, au niveau des impacts, on peut en parler ensemble, peut-être comment vous voyez le dossier santé électronique, est-ce que vous y voyez des bénéfices, parce que c'est sûr que ça va amener, puis on en parlait tantôt, la petite question de la gestion du changement, ça va amener des changements dans les habitudes de travail, dans les habitudes ou les pratiques de soins, on prend tous les soins de la même façon avec un tel dossier, si effectivement il y a le succès qu'on espère. Qu'on pense aux usagers qui n'ont plus à répéter les mêmes informations et s'assurer que l'intervenant, lorsqu'il prend une décision, lorsqu'il rend un diagnostic, il a l'information le plus rapidement possible. Parce que si je pense à un test de laboratoire, puis le médecin l'a 10 jours plus tard, mais peut-être pendant ces 10 jours-là, c'est 10 jours déterminants pour ma santé, que s'il l'avait eu pratiquement 7, peut-être qu'il a pu intervenir plus rapidement. Puis, donc, on pense pouvoir améliorer la qualité des soins, l'accès aux soins aussi avec ce dossier-là. Je pense que ça fait pas mal le tour des services de conservation. Si vous voulez échanger, poser des questions sur comment vous voyez ça, comment vous, au niveau même de la protection de la vie privée, comment vous percevez ce dossier-là. Oui?
Est-ce que vous êtes donné un échéancier pour la participation du public? Vous avez dit que le gouvernement a investi environ 500 millions, puis une bonne partie de cet argent-là va servir à venir chercher les gens. Alors, si, disons, la première année d'implantation, est-ce que vous avez utilisé, disons, 20% des usagers qui vont...
Ce que l'on vise, le déploiement, parce que, comme j'ai tantôt, on a une disposition dans la loi qui nous permet que les dispositions, une fois qu'elles seront en vigueur, ne pourront prendre effet qu'à l'égard des régions qu'on va désigner dans l'arrêté ministériel, à l'égard de certains professionnels, de certains enseignements. Je vous ai dit, ça serait les régions de Montréal, Montérégie, Laval, c'est quand même un gros bassin de population, je dirais peut-être quasiment la moitié de la population du Québec, à peu près, là, j'imagine. Donc, la campagne d'information, parce que le projet de loi a été adopté, bon, en novembre dernier, à peu près, Et depuis ce temps-là, il y a beaucoup de comités, c'est, vraiment ça fonctionne comme ça, il y a beaucoup de comités aviseurs, de comités cliniques, de comités de toutes sortes qui regardent comment les choses pourront se faire. Il y a des gens, justement, il y a une équipe qui va s'occuper vraiment de la gestion du consentement et comment on va informer les personnes. Donc, il y a comme des comités au niveau communication, parce qu'il y a la question du recrutement. Disons qu'il y a eu un problème au départ de gouvernance du projet, parce qu'on voulait nommer le dirigeant principal du projet qui, lui, va s'assurer du respect des échéanciers, du budget, du cadre légal, que la techno répond bien aux besoins, tout ça. Et ce dirigeant principal-là, qui est un ministre associé, Maurice Boisvert, a été nommé comme adjoint. Donc, avant ça, c'est comme il y a eu comme une espèce de ballottement qu'on n'a pas pu avancer peut-être aussi rapidement là, que ça aurait dû l'être, parce que l'échéancier qui était fixé, disons, après l'adoption du projet de loi, c'est de débuter en février 2007. Nous, on ne pourra pas débuter en février 2007 pour la raison que je disais tantôt. Comme les règlements ne sont pas adoptés, on ne peut pas commencer à solliciter les gens parce qu'on ne sera pas en mesure de leur donner toute l'information. Demain matin, je mettrais, moi, je ne sais pas, moi, dans les, dans, je sais pas, moi, dans la catégorie médicaments, je dirais, je ne sais pas, moi, les diagnostics, que ces antécédents familiaux, puis je me fais des choses, puis ça passerait, disons. Puis je commence à recueillir le consentement, puis les gens ne savent pas que c'est ça qu'on va contenir comme renseignement. C'est ça qu'ils pourront révoquer leur consentement, mais qui auront donné un consentement à quelque chose qu'ils ne savent pas ce que ça va contenir. Donc, il faut attendre que, il faut que je sache aussi qui va pouvoir avoir accès à ces renseignements-là. Donc, les règlements, c'est la priorité pour le moment, c'est de faire adopter les règlements pour qu'on soit en mesure après de pouvoir recueillir le consentement. Mais comme je disais, pour recueillir le consentement, les personnes qui vont être habilitées à le faire, on parle des médecins, des pharmaciens, des infirmières et des personnes en emploi dans un cabinet privé, ça pourrait être une secrétaire, des choses comme ça, des personnes comme ça plutôt. Pour pouvoir recueillir le consentement, ça leur prend un certificat aussi. Ça leur prend un profil d'accès qui dit qu'ils vont pouvoir recueillir le consentement et le transmettre à la RAMQ. Puis mettre en place une infrastructure avec le public, je peux vous dire que c'est comme un peu compliqué, là. C'est de cette dimension-là, là, c'est on travaille aussi sur la mise en place de l'infrastructure publique. Juste désigner le prestataire de services de certification, ça n'a pas été simple, parce qu'on cogne à des portes, puis il y a des portes qui faisaient des choses qui ne pouvaient plus faire, ou c'est pas nécessairement évident. Juste mettre en place l'infrastructure publique, c'est pas évident. Donc, on ne peut pas recueillir le consentement sans que les gens n'ont pas les certificats, tant qu'on ne sait pas ce qui est dans les... C'est que si on prend un règlement, c'est le minimum, si tout va bien, puis qu'on est vraiment, c'est le minimum 4 mois l'adoption d'un règlement à partir du moment où il est au secrétariat du conseil exécutif. Mais disons, normalement, c'est 6 mois. Mais si on arrive dans la période de commentaires, on sait que quand on adopte un règlement, il y a une période de consultation de 45 jours. Si jamais il y avait beaucoup d'opposition, ou des gens qui interviendraient pour dire, « Hey, nous, on n'est pas là, on va être là, ou on ne nous donne pas tel droit, on va avoir tel droit. » Puis là, ben, c'est le téléphone au bureau du ministre, mais là, c'est de prendre des temps aussi. Fait que, tu sais, on ne sait pas combien de temps ça va prendre l'adoption des règlements.
Mais autrement dit, vous envisagez la mise en vigueur de ces dispositions spécifiques de la loi à peu près au même moment que l'adoption des règlements?
Oui, probablement, c'est ce qu'on fait. Mais ce qu'on va faire, c'est parce qu'avant d'adopter, avant de prendre le décret d'entrée en vigueur de la loi, ce qu'on ne fera pas entrer toutes ces dispositions-là en vigueur, c'est qu'on fera ça un petit peu de dentelle pour dire, par exemple, tel mot dans tel paragraphe, de tel alinéa, de tel article qui rentre en vigueur, mais pas le reste. C'est comme... Ça va être... Il faut être moine, parce que c'est vraiment un découpage fin pour dire qu'est-ce qu'on veut exactement. Parce que dans une phrase, il y a des mots qu'on ne fait pas entrer en vigueur, puis ce qui fait que ça donne une espèce de résultat qui, après ça, avec le décret de prise d'effet, vient encore limiter un petit peu, là, mais c'est sûr que les dispositions n'entreront pas en vigueur.
Là, c'est parce qu'on nous a annoncé publiquement récemment que certaines régions, ça serait déjà en forme. On a parlé de la région de Laval en particulier. Donc, on fait des annonces de ce type-là, mais... Si je vous comprends bien, il y a peu de chances avant plusieurs mois que les dispositions soient mises en vigueur.
J'essaie de voir si on pourrait invoquer l'urgence. Moi, je pense qu'il n'y a pas de situation d'urgence qui nous permettrait de réduire les délais de publication dans sa vigueur. Je pense qu'on n'a pas le choix de suivre tout ça. Il y a peut-être une façon de gérer ça par ailleurs qui nous permet peut-être de sauver un petit peu de temps. Mais moi, je vous dirais, le règlement, il est fini pour les profils d'accès, il est fini pour ce qui touche les les renseignements qui sont compris dans chacune des catégories, mais la loi prévoit aussi que les clés doivent reposer sur un support physique déterminé par règlement. Puis c'est cette partie-là du règlement qui n'est pas terminée. Ça pourrait peut-être qu'on le mette de côté, qu'on fasse avancer l'autre partie du règlement, parce que je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de gens qui vont faire des commentaires sur le support sur lequel reposent les clés. Là. Ça m'étonnerait. Est-ce qu'on pourrait peut-être partir de ce règlement-là, puis compléter après pour le support physique. Là. Mais moi, je l'ai dit. Mais peut-être pas. L'objectif, c'est que le 1er novembre, ce règlement-là parte. Alors, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Oui?
Les personnes qui habitent à Laval, ils ont un projet civil, est-ce qu'on peut considérer que ces personnes-là, qu'elles ont déjà consenti à ce que certaines informations soient accessibles à certaines personnes?
Elle se demande si finalement, à Laval, il y a un projet stérile.
Est-ce que ça va être compatible avec ce que le gouvernement va faire? Est-ce qu'elles sont tout de suite intégrées dans le projet? Est-ce qu'elles vont...
La réponse est non. C'est non, parce que ce n'est pas les mêmes finalités, ce n'est pas les mêmes intervenants, ce n'est pas les mêmes renseignements, c'est pas... Alors que là, ce qui est prévu, c'est vraiment un consentement spécifique pour les services régionaux de conservation.
Des systèmes parallèles qui vont continuer, ou est-ce que le projet Cyril va être comme...
C'est parce que le projet de Cyril, c'est un projet qui était aussi financé par le ministère. À partir du moment où on met en place les services régionaux de conservation, que je parle... Ma compréhension à moi, là, je n'en ai pas discuté, mais j'ai comme l'impression qu'on va essayer de financer ce projet-là parce qu'on va mettre des sous dans les services régionaux de conservation. Parce que le projet Cyril, ça ne visait quand même pas tous les intervenants. C'est vraiment une base volontaire, autant pour les patients que pour les intervenants. Donc, le projet, c'est comme dans n'importe quoi, je pense que Laval, pour ceux que ça fonctionne, pour les médecins que ça fonctionne, il va y avoir probablement une perte quelque part là, par rapport à ce qu'on met en place.
Mais... Au niveau de la population de Laval, il y a déjà une conscientisation du projet. Donc on pourrait penser qu'à Laval, par rapport à d'autres régions, il n'y a pas eu de projet qui dort comme ça. Ça pourrait être plus facile d'être implanté.
Mais moi, je pense que l'adhésion risque d'être plus grande de la part des intervenants de Laval, parce qu'il y a beaucoup de médecins qui sont informatisés, ce qui n'est pas le cas dans les autres régions, et qu'eux ont vu des bénéfices, parce que les médecins qui sont informatisés à Laval, qui participent au projet, ils veulent plus revenir en arrière. Ils veulent plus revenir en arrière. Par rapport à tout, il y avait une question peut-être au bénéfice de tout le monde. Je répéterai un petit peu la question que vous me posez concernant l'historique des données. On sait que dans le projet de loi sur la carte santé, la loi disait que les renseignements étaient cumulés à partir du moment de l'entrée en vigueur de la loi. Dans le projet de loi 83, il n'y a pas de disposition là. C'était fait la loi MUF. Alors, ce qu'on pense faire, parce qu'il y a beaucoup de médecins qui disent que ça n'a pas de bon sens, qu'on n'ait pas les données historiques, que ce serait intéressant, là. Alors, ce qu'on prévoit faire, dans le formulaire de consentement, il va y avoir deux consentements. Je consens la conservation de mes données, de la date. Il y aura un autre consentement pour dire, c'est l'intention, peut-être que ça finira pas comme ça, mais l'intention, c'est d'avoir un deuxième consentement où la personne consentirait à ce qu'on aille recueillir des renseignements là, qui sont dans des systèmes avant l'entrée en vigueur de la loi. Et ça ne pourrait pas, par exemple, aller au-delà du 1er janvier 2006, parce que c'est à partir de ce moment-là où les systèmes souffrent, le laboratoire, tout ça, sont vraiment des données fiables, on peut se fier. Donc, la personne pourrait choisir de reculer jusqu'au 1er janvier 2006, comme elle pourrait décider de reculer au 1er janvier 2008, si on est en 2015. Ça, c'est la personne qui va déterminer sur quelle période elle veut aller chercher l'historique de ces données. On n'imposera pas si une personne, je ne sais pas, en 2006, elle a subi, je ne sais pas trop quoi, elle ne veut pas partager ces informations-là. Après, elle a décidé qu'à partir du 1er janvier 2007, ces données historiques sont conservées. Alors, vous avez une question, je m'excuse?
Dans la loi sur les services de santé et services sociaux, on veut promouvoir une approche holistique pour ce qui est de l'élaboration du plan de traitement. Qui, dans certains cas, amène à faire intervenir d'autres personnes que celles que vous avez identifiées, physiothérapeutes, ergothérapeutes, travailleurs sociaux, qui ne figurent pas dans votre liste. Est-ce que l'identification de vos intervenants est uniquement associée à l'accès à la médication ou comment vous avez départagé ces intervenants?
Donc, tantôt, je disais, la finalité, c'est la prestation de services de santé. Ce qu'on disait façon principale, c'est médecin, pharmacien, infirmière. C'est vraiment là, les principaux intervenants. Il y a déjà la commission parlementaire qui sont venus dire qu'ils devraient être là. Là, on les a introduits. Certaines personnes, on les a introduits. Ceux qui avaient le pouvoir de prescrire les habilitations pour prescrire, la loi les autorise à prescrire, on s'est dit que c'est important qu'ils connaissent aussi les médicaments avant de prescrire autre chose. Parce que la question de l'interaction médicamenteuse, c'est vraiment un problème. Là. Autant dans les hôpitaux que dans le privé, là, c'est un gros problème qui occasionne souvent des hospitalisations et des maladies importantes, surtout chez les personnes âgées. Pour répondre à votre question, quand je vous parle de « je ne peux pas communiquer le dossier à des tiers », moi, je suis dans un établissement, ma feuille qui va provenir des services de conservation, où je mets dans mon dossier local, hein. Je disais, l'archiviste, en tout, il faut qu'elle fasse du ménage pour épurer de son dossier, qui provient des services de conservation. Mais l'équipe de soins dans l'établissement qui doit traiter, on ne se mettra pas à faire une feuille juste pour le médecin qui va traîner un petit son ferreau pour que personne ne la voie. Elle va faire partie du dossier local le temps qu'elle... ça va être nécessaire, la période finalement où le dossier est conservé et l'équipe de soins pourra avoir accès à ces renseignements-là. Là, mon mélothérapeute, mon neurothérapeute peut avoir accès à l'information qui est là, parce que partie de l'équipe de soins.
Ça rentre dans le dossier local, ça peut être déduit en vertu du calendrier de conservation.
Oui, mais quand on parle des données, les périodes où ils sont utilisés, c'est au niveau des agences, on peut les rendre actifs, les communiquer à des intervenants. Une fois que dans mon dossier local, la loi est pour venir régir ça, on dit que cette partie, tant que le renseignement n'est pas consigné comme tel, c'est les règles qui s'appliquent au dossier local, mais tous les imprimés, vous me faites penser qu'on n'a pas de disposition par rapport à l'imprimé. Est-ce qu'il suit les règles du dossier local ou il devrait suivre la même période d'utilisation que celle qui va être imposée pour la loi n'en dispose pas?
La loi sur les archives et le cadre général, c'est la loi sur les archives qui va
traiter. Oui, c'est ça. Mais... pour ça, c'est ça, c'est que les intervenants qui font partie de l'équipe de soins, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont dit que c'est important que les Imelo, Argo, tout ça, fassent partie des intervenants habilités, là, c'est pas la première fois qu'on nous signale. Puis on examine la possibilité de les introduire dans la loi. On examine.
Est-ce que je pourrais vous dire?
Oui.
En vertu de la loi sur la santé publique, on peut verser des rejets. On peut colliger de l'information sur l'état de santé général de la population, le ministre, le même ministre qui est responsable de la loi sur les services de santé et services sociaux a ces pouvoirs-là. Vous nous avez dit, on ne peut pas partir d'une modification adoptée et aller vers la loi ou l'accueillir de l'information en vertu de la loi sur la santé publique. Mais est-ce que l'inverse pourrait se faire? Mon registre, disons, sur les cancers, est-ce que je peux... La vaccination,
le système souffle devra faire, c'est que si, parce qu'il faut prendre la vaccination, il faut être un registre qui va construire le consentement des personnes aussi. Je ne peux pas, mon registre ne peut plus devenir mon système souffle. J'ai un système souffle pour tous mes renseignements temps. Le renseignement devra partir au service régional puis au registre de vaccination pour les personnes qui auront consenti. Je ne peux pas, mon registre de vaccination, vu qu'il marche aussi avec le consentement, c'est que des personnes qui n'auront pas consenti au régime de vaccination, mais qui vont avoir consenti aux services régionaux, donc ça ne veut pas
dire...
Ou l'inverse, donc c'est pas les...
La vaccination, une maladie à déclaration obligatoire, je n'ai pas besoin de mon consentement, donc ça pourrait être...
Comme on dit que le renseignement, c'est l'intervenant qui, dans le cadre d'une prestation de service de santé, non pas de... C'est vraiment une prestation de service de santé qui doit alimenter lui seul, ça ne peut pas provenir du registre de vaccination. On n'est pas dans le cadre d'une prestation de service de santé. Et le renseignement qui va dans les services de conservation ne pourra pas s'en aller au registre de vaccination. Ce n'est pas une communication par l'intervenant habilité dans le cadre de prestation de service de santé. C'est finalité unique, c'est juste pour la prestation. L'agence les conserve pour l'intervenant habilité qui dispense un service. S'il ne dispense pas un service, il a beau être médecin, il n'a pas le droit. C'est dans une fonction qui ne dispense pas un service de santé, qui est dans une fonction d'évaluer quelque chose, dans l'expertise, il n'y a pas droit au renseignement. Donc, mon système futur va aller alimenter mon régime de vaccination, puis il va aller alimenter les personnes qui vont avoir consenti la partie vaccination des services régionaux de conservation. C'est calme, ça, c'est long. Autre question? Intervention?
J'avais une question sur le droit de rectification en matière de télésanté, parce que la loi prévoit qu'il y a un double dossier, n'est-ce pas?
Non, on change. On n'est plus dans les services de conservation. On est dans les dispositions qui ont été introduites dans la loi pour venir encadrer l'exercice de la télésanté.
Et
Je dis parce que je ne veux pas qu'on se mélange. Là. C'est bien mélangé. Là. Faut pas...
Il y a un double dossier,
oui.
N'est-ce pas?
Oui.
Alors, comment ça va s'exercer, le droit de rectification? Une fois que la personne s'adresse aux deux, c'est-à-dire que si j'ai lu une imagerie quelconque et que je veux faire rectifier quelque chose, il faut que je m'adresse à la fois, si je suis en région et que ça a été communiqué ailleurs, il va falloir que je m'adresse aux deux endroits. C'est ça qui me semblait un peu problématique. Hein.
Dans les dispositions générales sur le droit de rectification, l'entité qui reçoit la demande de rectification doit l'acheminer à toutes les personnes auxquelles ça a été communiqué.
Là, ça me semblait pas
évident. Dans Arlé Santé, c'était pas clair l'obligation de tenir un dossier. Qui avait l'obligation de tenir un dossier? Ce qu'on a fait en télésanté, c'est de dire chaque partie qui dispense des services dans le cadre d'un service de télésanté doit tenir un dossier sur l'usager. J'avoue que est-ce que les informations, sûrement qu'il y a des informations identiques, et d'autres complémentaires. Est-ce que le médecin qui consultait va mettre dans son dossier, est-ce que ça va être la même chose que probablement, parce que disons que le médecin rend un diagnostic, qu'il le communique au médecin qui a demandé la consultation, il va lui transmettre son diagnostic. Donc, normalement, les informations arrivent à être similaires. Puis la rectification, c'est au cas où elle ne serait pas similaire, alors qu'elle devrait l'être. Là. C'est comme...
Parce que la personne à qui va s'adresser, là, elle a subi en région... un examen de télésanté avec une consultation à Montréal avec un spécialiste qui lui a je comprends que pour des fins de facturation, c'est idéal, le double dossier, mais pour des fins de rectification, là, ça peut être un peu plus problématique.
C'est un peu compliqué parce qu'en principe, si on oublie chacune des parties à tenir un dossier, ça fait partie du dossier local de l'établissement A, puis l'autre, ça fait partie du dossier local de l'établissement A. Ils détiennent les deux l'information.
Donc, A, puis je ne le tiens pas à B, parce que il peut y avoir tout ça pour...
Ça demande l'application, ça peut être annuel. Effectivement, parce que si ces personnes font une demande, on rectifie dans A, puis on ne veut pas rectifier dans B, ça peut se... Mais c'est parce que quand on regarde la rectification des dossiers de santé, c'est quand même... les sujets sont quand même très limités quand on rectifie.
Oui,
c'est ça. Donc, peut-être que le problème...
Une question, est-ce que vous avez des estimations sur le nombre de personnes qui ne consentiront pas? Parce que si je regarde Cyril, la plupart des gens consentent.
Ben moi, si je pas vous dire, je pense qu'il y avait deux personnes dans la vague qui ont consenti. Une ou deux personnes, tout le monde avait consenti.
Vous ne trouvez pas que c'est un cadre juridique pas mal compliqué, finalement, pour deux personnes?
Mais vous essayez de faire passer un cadre juridique différent, si vous essayez, ça va être...
Ah oui!
C'est parce que ce que je vous disais tantôt, quand je vous expliquais un petit peu la mise en contexte, on s'est inspiré des raisons pour lesquelles ça n'a pas fonctionné, pour dire, bon, s'ils n'ont pas aimé ça, on va faire d'autres choses, on va faire le contraire, on va mettre des garanties. Ils ne veulent pas que ce soit administratif, la gestion, on met ça sur la responsabilité d'un clinicien. On s'est inspiré de ces motifs-là. Je voulais comprendre aussi que le défi, c'est que le grand projet de loi avait été présenté en 2001. On arrivait avec un projet dans sa facture un peu différente. C'est un peu le même projet, hein. Trois ans plus tard, il ne faut pas se cacher, là, c'est à peu près les mêmes informations, il y a moins, c'est mieux encadré, je pense, tout ça, mais on arrivait quand même trois ans plus tard. Il fallait s'assurer de l'adhésion autant des personnes qui tenaient la commission parlementaire, les différents groupes de défense d'intérêt, des personnes malades, tout ça, puis des parlementaires. C'est important que les parlementaires adoptent ce projet de loi-là aussi, parce que si on manquait notre coup, ce projet de loi, quand est-ce qu'on aurait pu revenir avec un autre projet? On n'a pas pu revenir l'année suivante, deux ans après, ou trois ans. Ça a été comme le message, en fait, c'était de, quand on n'en veut pas ce dossier-là. Là. C'est pas utile, ça coûte cher, puis on n'en veut pas. Là. Sauf que quand même, quand on regarde les chiffres qui démontrent les conséquences du manque d'information des cliniciens dans le cadre des prestations de services de santé, les dommages que ça cause sur la santé, c'est énorme. Là. C'est vraiment énorme. Puis on peut penser, est-ce que c'est un contrôle administratif, le dédoublement, par exemple? Si moi, j'ai des examens de laboratoire qui ont été rendus une semaine, je me présente chez un autre médecin qui voit mes résultats de laboratoire, est-ce qu'on dit que c'est du contrôle administratif? Le médecin dit, écoute, tu as passé des examens, je peux les reprendre, les résultats. Je n'en ferai pas passer d'autres, ils ne changeront pas tes résultats. Je vais les reprendre, je vais les analyser, je vais voir si j'arrive à la même conclusion que l'autre, mais je ne peux pas repasser d'autres tests. Puis moi, je me dis quelque part, on a au Québec un panier de services quand même assez considérable, puis les coûts sont de plus en plus astronomiques. Et si on met pas des... on ne donne pas des outils tout le monde pour se responsabiliser, est-ce qu'on aura le même panier de services dans 5 ans, dans 10 ans? Il y a ça aussi, là. Donc, avoir un panier de services qui est pratiquement l'équivalent de ce qu'on a aujourd'hui, avoir de meilleurs services parce que les intervenants ont les informations les plus pertinentes pour prendre les décisions, puis attends, c'est pas 10 jours plus tard, c'est pas 5 jours plus tard, ils l'ont tout de suite, donc tout de faire, ils l'ont, donc ils peuvent intervenir plus rapidement. Donc, moi, c'est les bénéfices que j'y vois. Puis, comme j'ai tantôt, c'est sûr que si quelqu'un qui est pratiquement, qui n'a pas beaucoup de maladies ou très peu, il va se soigner une fois par année pour une grippe, puis peut-être qu'il n'y aura pas un intérêt plus grand qu'il faut avoir ce type de dossier-là. Mais je pense que les gens, comme j'ai tantôt, les gens qui souffrent de maladies chroniques, qui ont besoin, parce que ces personnes-là, ils n'hésitent pas à partager leur information. Ils n'hésitent pas. On a vu à Laval, il n'y a pas de résistance. Pas du tout, pas du tout.
C'est ça, c'est qu'il semble y avoir un décalage assez saisissant entre ce qu'on constate dans des expériences pilotes de partage, où il y a une adhésion relativement forte, par rapport au discours d'un certain nombre de groupes qui se disent représentatifs des malades, mais que finalement, on se rend bien compte que les vrais malades, eux, ne semblent pas avoir les mêmes inquiétudes.
Parce qu'il y avait quand même aussi le projet de Rimouski, au début des années 90, et Cyril, et PRSA Carpentier Laval. Il y a vraiment une adhésion assez grande à ces projets-là. Les gens ne posent pas de questions, sauf que bien souvent, ceux qui ont des objections pour différentes raisons, c'est ceux-là qui parlent les plus fort, qui se font le mieux entendre, puis les politiciens, c'est ce qu'ils entendent, c'est ce qui donne suite à ça. Hein. On ne peut pas oublier qu'on est dans le domaine politique aussi, là. Hein. Je me suis.
Oui, bien, je trouve que la meilleure façon de s'approcher des objections, c'est de montrer un système, de montrer avec des faits concrets, et de dire comment que c'est pas si pire que ça, finalement. Là, je crois que c'est un peu ça le problème, c'est d'en monter un à la grandeur du Québec, de partage d'informations, qui après un certain temps de dire, ben là, vous aviez peur que ça se produise, manifestement que ce n'est pas produit, peut-être qu'on pourrait.
Je trouve ça intéressant ce que vous dites, parce que pour moi, ce que vous dites, c'est le défi. Parce que ça se peut que ça ne se passe pas comme ça non plus. Il faut que ça se passe comme vous le dites, pour que ça, les gens aient confiance. J'ai confiance dans la façon dont mes renseignements sont partagés. Oui, je suis d'accord que ceux qui me traitent aient mon information, mais moi, je ne veux pas que mon assureur, là, je ne veux pas que mon employeur, là, ça ne le regarde pas. Puis s'ils veulent me passer une faire poser des examens pour mon état de santé, regarde, je vais lui passer leur examen, mais il y a un défi important pour que les gens aient confiance, puis que les intervenants trouvent l'outil utile, qu'ils aient confiance dans ce qu'il y a dedans. Puis moi, je me dis, c'est un peu... Je pense à un dossier qui est appelé à évoluer, à s'améliorer éventuellement si les gens font bien les choses. Si on a réussi à créer ce climat de confiance-là, on pourra... Oui, madame...
Oui,
je ne
sais pas,
ben,
je
ne
sais pas si ça doit se faire, mais est-ce qu'il y a des fois des problèmes,
Ben, c'est vrai, parce que c'est un petit peu particulier, hein. C'est un modèle que je dirais, vous connaissez bien?
Oui.
Ben, madame pourrait compléter après moi. Moi, ce que je veux dire, ce qui s'est passé à Cyril, c'est un projet régional. Et je ne pense pas qu'on a pu prendre ce modèle-là pour l'implanter au niveau provincial. Peut-être que je me trompe. Je vais vous laisser,
Avant, ce qu'il y a eu l'autre,
il y a eu l'UPRSA qui a ressenti la vague.
Il y a eu beaucoup d'interventions de la commission d'accès à l'information qui a été empêcheur de tourner en rond ou d'avancer selon le cas. Peut-être qu'il faudrait modifier la façon de voir les choses, mais ça a été ça, à mon avis, qui a eu cas. Il y avait dans les prochaines missions, il y avait quand même un certain nombre de problèmes. Qui allait émettre les cartes d'autorisation d'accès? Tout le monde voulait avoir accès à tout. Il y a Laval aussi, il y a le problème de la médecine sans carte. Alors, et là, je pense que ça va être un point d'achoppement parce que les gens, il y a un certain nombre de cliniques privées qui donnent des soins de santé, presque essentiellement des gens qui n'ont pas de carte d'assurance maladie. Ça atteint des proportions assez importantes. Alors là, quand vous allez arriver avec l'identifiant unique, là, je pense que c'est là que ça va accrocher parce que les objections qu'on avait rencontrées à Laval, c'était beaucoup autour de ces questions-là. Puis il y a un cheminement, effectivement, qui s'est fait parce qu'il fallait, comme comme vous le disiez, un changement de culture qu'il faut faire avec les médecins. Alors, ils devaient essayer de s'entendre sur qu'est-ce que le diagnostic, comment nomme-t-on telle maladie pour pouvoir insérer. Ils ont fait un long travail sur ces questions-là.
C'est juste que la normalisation des données, c'est assez complexe. Puis dans ce projet-ci, je pense qu'on n'a pas l'intention d'imposer une normalisation. Parce que moi, je travaille avec un code, tout le même code. On sait ce que ça veut dire quand même, et peut-être différents codes pour appeler la même chose. Il va y avoir un service de normalisation des données. Quand la donnée va entrer à l'agence, c'est là qu'on va faire la normalisation de la donnée. Mais commencer juste la question de normalisation, c'est super complexe. Puis ça modifie beaucoup les habitudes de travail des médecins qui, là, ça fait 20 ans qu'ils mettent le code 01 pour telle affaire, puis il faut qu'ils mettent le code 07. Regarde, ils ne le feront pas, là. Il faut leur faciliter beaucoup, beaucoup, beaucoup la vie, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Là. Mais à l'avance, c'est particulier. Vous avez des intervenants, des médecins, des modules informatiques, puis il n'y a pas longtemps en arrière.
Il y avait des porteurs de ballons.
Il y avait toujours des porteurs de ballons importants.
Il y avait aussi des compagnies informatiques qui étaient derrière, CGI, IBM, qui étaient là en disant, ben voilà, on nous fournit des systèmes clés en main, et puis ça va fonctionner. Donc, il y avait tout pour informatiser la région de Laval. C'est sûr que Montréal, puis la montagne d'Agir, là aussi, il y a eu des projets, non seulement qu'on parle d'ici, mais vous pensez que ça va. C'est sûr que si vous dites que CGI,
c'est blanc. Ah, je peux dire ça. Moi, je dis que l'agence ne peut pas répartir ses fonctions à CGI. Je veux dire, CGI, il y a eu des appels d'offres quand même là, pour monter toute la structure informatique. Là. C'est sûr que ce nom-là est là.
Est-ce que ça répond
à la
question?
Je veux savoir c'est quoi les problèmes.
Ah
oui, c'est sûr. Je veux savoir c'est quoi les problèmes. Donc, c'est les problèmes qui sont
Il y a des évaluations qui ont été faites de tous ces projets-là, que vous pouvez trouver ça, entre autres, sur le site de la Commission d'accès à l'information, qui a analysé ce qui semblait aux yeux de la Commission à ses principaux enjeux.
Même sur le site du ministère.
Oui, aussi sur le site du ministère.
Mais s'agissant du consentement, là, comment ça va se passer? Parce qu'on dit souvent que les médecins n'ont pas le temps. Comment vont-ils expliquer à la patiente comment tout ça se passe? Est-ce qu'ils vont devoir expliquer ce que vous venez de faire ici?
J'espère que les documents d'information vont être plus mieux sexués au niveau communication pour grand public.
C'est
pas
des vacances, c'est en
ligne. Mais ce qui est prévu, c'est des intervenants médecins, pharmaciens, infirmières qui pourront recueillir le consentement. Et pour ceux qui sont pharmaciens, médecins qui sont en cabinet privé, ça pourrait être du personnel qui est à leur personnel. Mais c'est évident que l'objectif qu'on a, nous, c'est de faire en sorte que les personnes qui sont appelées à recueillir le consentement soient habilitées à bien enseigner les personnes. C'est pas, je veux dire, garçon en bas, là, c'est la personne des questions, c'est important que celle qui le recueille soit en mesure de répondre aux différentes questions. Mais c'est sûr qu'il y aura des campagnes de sensibilisation, comme j'ai tantôt, qui vont être faites pour sensibiliser les gens. Il y aura des documents aussi d'information qui vont être distribués, puis à la disposition des gens pour se renseigner sur ce que c'est.
Sur le même sujet, dans la loi, on dit une personne de plus de 14 ans peut consentir. Est-ce que ça veut dire que ça exclut toute personne
de moins de 14 ans?
Qui agit comme tuteur ou mandataire ou curateur.
Je trouve que c'est une question de cohérence, parce qu'on sait que l'enfant de 14 ans et plus peut consentir à ses soins. Puis au niveau du dossier de l'usager, si on reconnaît des droits à la personne de 14 ans et plus. Donc, en termes de cohérence, pour donner aussi au niveau du dossier santé électronique, le droit, lui, de choisir s'il en veut une ou s'il n'en veut pas. Donc, quand il a moins de 14 ans, c'est le titulaire de l'autorité parentale qui consent. L'enfant a 14 ans, si lui en veut plus, puis le gamin n'en veut plus.
Alors, c'est vraiment la règle générale qui s'applique. Il n'y a pas de volonté dans la loi d'exclure la règle générale et de limiter uniquement aux personnes de plus de 14 ans.
Non, juste pour dire, c'est comme une exception. Normalement, c'est 18 ans pour pouvoir consentir. Si c'est l'exception, à partir de 14 ans, tu peux consentir toi-même. Donc,
c'est tout sur les familles désunies aussi. Les parents, les enfants ne veulent pas nécessairement que les parents aient accès à certains enseignements.
Mais justement, le titulaire de l'autorité parentale, a-t-il accès, lui, à ça?
Ça va être les mêmes, au niveau des règles d'accès, ce sont les mêmes règles que celles qui s'appliquent au dossier local. On a pris les règles s'appliquent, en faisant les adaptations nécessaires, c'est les mêmes règles. Donc, moins de 14 ans, le titulaire, l'autorité parentale a accès, puis 14 ans, si l'enfant s'objecte et le titulaire n'a pas, pas accès. Là,
Et c'est pareil pour les curateurs et...
Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Madame?
Non, pour marcher, on n'est pas sur le coup qu'il y a le droit, le coup de l'intérêt. Parce qu'il y a une équité qui mérite le temps. Tout à l'heure, plusieurs fois, la ronde, je veux dire, parce qu'un commentaire, parce que plusieurs fois, il faut poser la question à la différence entre les médicaments. Pas la différence, parce que seulement on a pris les médicaments. Mais les médicaments, ils ont la structure sur le juridique.
Hein?
C'est les autres produits,
là,
l'enfant.
C'est ça.
Tout est... J'ai un compagnon par la société.
Ce que je disais tantôt, le truc de produit naturel n'est pas réglementé comme tel. Fait que c'est quoi un produit naturel? C'est quoi... Mais éventuellement, disons que ça poserait des problèmes, les produits naturels. Comme on dit, on peut toujours mettre un produit, parce que je ne connais pas, là, mais des types de produits naturels qui, pris avec d'autres médicaments, peuvent avoir des conséquences importantes. Puis souvent, le médecin va vous poser la question, est-ce que vous prenez d'autres médicaments? Quels sont les médicaments que vous prenez? Prenez-vous d'autres médicaments? Prenez-vous d'autres choses? À ce moment-là, on pourrait mettre ce renseignement-là dans les données d'urgence, parce qu'on jugerait important de connaître ça, ou... Le médecin en posant la question, c'est qu'il disait à la personne, mais regarde, là, tu prends ça, tu prends pas tel autre type de médicament, mais en tout cas, c'est vraiment ceux qui, les médicaments, là, avec les vines, qui sont finalement des... On peut penser, parce que quand on regarde les médicaments assurés par la RAMQ, non, c'est une autre, non, okay, non, c'est bon, c'est bon, j'aurais fait un raisonnement que ça fait quoi, ok.
Ce genre de système, parce que dans une recherche de l'équilibre entre la protection de la vie privée et une meilleure
circulation de l'information,
il y a un certain nombre de facteurs qui, justement, enfin, que ce soit les produits naturels, mais aussi encore l'alimentation, le fait d'être fumé en route à la consommation d'alcool. Enfin, on ne peut pas remplacer le facteur humain et le questionnement du médecin avec la relation de confiance qui existe entre un patient et son médecin par un système informatisé, sauf à en faire un système qui serait complet, qui serait trop complet, enfin, pour la protection des vies privées, où on devrait collecter toutes les informations possibles sur la vie quotidienne de la personne. Donc il y a quand même des intérêts certains sur l'interaction des différents lieux, etc., mais on ne peut pas non plus...
Donc, on ne peut pas connaître toutes les habitudes de vie d'une personne, à savoir à quelle heure elle se couche, qu'est-ce qu'elle mange, qu'est-ce qu'elle boit, qu'est-ce qu'elle ne boit pas, est-ce qu'elle fait de l'exercice ou c'est pas ça l'objectif. Hein? C'est vraiment des renseignements de santé les plus pertinents pour prendre en charge quelqu'un ou pour rendre de meilleurs services ou assurer, comme je dis tantôt, le continuum de soins. Parce qu'aujourd'hui, c'est la pluridisciplinarité, c'est... Les interventions, tout le monde se spécialise hein, parce qu'on ne veut pas dédoubler les services, on ne veut pas que tel hôpital soit un territoire, fasse la même chose que tel autre hôpital parce qu'on dédouble les services, ça coûte cher. Donc toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça. Nécessairement, quand je passe d'un établissement à l'autre, d'un établissement ou avec un partenaire du réseau comme une clinique privée où les gens ne me connaissent pas, ce dossier-là leur permet de prendre connaissance et de les renseignements rapidement. Hein, parce que c'est vrai qu'on est dans ce contexte-là où on se promène d'un intervenant à l'autre pour obtenir un service qui autrefois, on l'obtenait au sein de l'hôpital, puis c'est nous, on sortait de là, puis c'est facile. Mais c'est aujourd'hui que tel qui est spécialisé là-dedans, puis le tel qui est spécialisé là-dedans, puis tel type de radiologie se prend juste dans tel type d'établissement. Donc, je suis patient là, je prends mes radios là. Je reçois des soins pour le cancer dans tel autre hôpital. Finalement, je circule pas mal. C'est tous des intervenants différents. Là, c'est,
autre question?
Il nous reste à vous remercier, Madame Maître Bois, de cette présentation. C'était un défi qui était de taille que de présenter des dispositions aussi complètes et somme toute assez complexes. Et je pense que vous avez réussi à nous rendre cela digestible et accessible. Et cela, sans doute, augure bien pour notre santé à tous. Alors, merci beaucoup.
Je vous remercie.